Donc nous redémarrons cette année avec un invité que vous connaissez déjà, qui était inutile de présenter, mais je dirai quelques mots à propos du Cheikh Ahmed El-Mikhtar, qui a le plaisir, qui a répondu à cette invitation. Donc juste pour vous dire que, comme chaque année, nous avons décidé de choisir un thème central qui va couvrir toute l'année. Cette année, nous avons choisi l'éducation islamique. Alors, on entend beaucoup parler d'éducation. Il y a beaucoup de choses qui se disent, parfois de différents courants de pensée, j'entends. Et donc là, il est important de resituer les choses par rapport à notre islam, par rapport à notre religion, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran dans lequel il y a mis énormément d'enseignements, notamment par rapport à l'éducation. Alors l'éducation, on a décidé de lui consacrer cette année parce que, évidemment, en réalité, même une année, ça serait certainement pas suffisant, mais on voulait en tout cas lui consacrer une année entière où on verrait certains aspects de l'éducation. Et aujourd'hui, on verra le thème que nous a préparé Cheikh Ahmed Mikhtar, Hafidhahullah. Donc voilà pour ce qui est du thème de cette année. Et donc là, aujourd'hui, Cheikh Ahmed Mikhtar va nous parler d'un sujet particulier. Donc d'abord, on le remercie pour son invitation. On a beaucoup, la réponse à son invitation, on a beaucoup de plaisir à le recevoir. Il est déjà venu, il est imam à la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. On en parlait encore tout à l'heure, puisqu'elle est loin d'être terminée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans votre dua, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les aide à terminer ce grand projet, hein, magnifique. J'espère que vous avez l'occasion de visiter le site internet. En tout cas, plusieurs fois, le Cheikh Ahmed est venu nous voir pour collecter ou pour nous informer au sujet de cette mosquée qui est en construction. Donc, Ahmed Mertal, en plus, il y a une excellente nouvelle aujourd'hui à vous annoncer, puisqu'il vient d'être papa à nouveau d'un petit qui s'appelle Ilyes. Donc, là aussi, encore une fois, vos deux inshallah, seront les bienvenus pour Cheikh Ahmed et sa famille.
Tout le monde est invité pour
D'accord. Donc, Cheikh nous dit que tout le monde est invité à la Haqiqa, donc ce vendredi, c'est ça? Ce vendredi, Inch'Allah, à la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Donc, vous êtes tous et toutes invités à la Haqiqa du fils de Cheikh Ahmed Mikhtar. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fi. Donc, aujourd'hui, un sujet très important, puisque j'ai parlé d'éducation, l'un des aspects les plus importants, c'est notre foi, c'est l'aspect le plus important dans notre vie ici-bas, et c'est ce qui va nous faire réussir à la fois cette vie et l'au-delà. Et pourtant, cette vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour nous est semée d'embûches. Et on a voulu aujourd'hui traiter un petit peu de ce sujet-là, pardon, qui est le lien indissociable de la foi avec les épreuves de la vie. Et les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, les plus aimés des êtres humains, ont été eux aussi éprouvés. Alors comment justement se comporter par rapport à ces épreuves? Quel rôle ont ces épreuves par rapport à notre foi? C'est ce qu'on va découvrir avec notre Cheikh Ahmed Mikhtar, auquel je vais laisser la parole, inshallah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très honoré et très heureux d'être parmi vous pour cette première veillée que Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis d'organiser. Bien sûr, j'ai répondu favorablement parce que c'est le cas de chaque année, j'espère, inshallah, tant qu'on est vivant, et parce que je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, et j'aurais répondu, même si je ne fais pas de conférence et de dars, pour une éventuelle invitation, inshallah ta'ala, rien que pour vous visiter, vous rencontrer et contempler la lumière de vos visages, inshallah ta'ala. Donc, le thème est très important de cette année que nos responsables ici ont choisi, qui est le thème de l'éducation. L'éducation, c'est vraiment un ministère. Ce n'est pas uniquement un thème, c'est un ministère. C'est bien sûr le ministère divin, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, des plus hautes sphères de ce monde, au-dessus des cieux et au-dessus de son trône, il a envoyé des éducateurs, des prophètes et messagers, afin de nous guider, de nous éclairer le chemin qui mène à notre finalité, qui est notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ghayatuna, wa rasuluhu qudwatuna, wa kitabuhu dusturuna, wa shahadatu fi sabilihi asma amanina. Ça, c'est notre slogan, nous les croyants. Allah est notre finalité, son prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, notre guide, son livre, le Coran et le Karim, est la lumière qui éclaire notre chemin vers cette finalité qui est Allah. Et mourir en tant que musulman, c'est le meilleur de nos souhaits. Mourir en tant que musulman est le meilleur de nos souhaits. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, a fait en sorte qu'il révèle à Muhammad alayhi salatu wa salam ce qui a fait pour lui son bonheur. Et ça, vous le trouverez dans la sourate Taha. Et Taha n'est pas traduit. Quand vous verrez les traductions du Coran al-Karim, vous verrez toujours ils mettent Taha avec une transcription phonétique sans la traduire. Pour quelle raison ? Parce que Taha veut dire deux choses. Et peu de traducteurs l'ont su. La plupart des traducteurs n'ont su que une seule définition du terme Taha, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taha, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'un de ces noms qu'Allah a choisi pour lui. Mais il y a une autre définition de Taha, et qui est définie par une lecture parmi les 10 lectures authentiques transmises de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, et qui est la lecture de l'imam Hamza, transmise à nous par l'imam Khalaf, rahimahullah, et qui, au lieu de la prononcer Taha, on la prononce Taha de cette manière. Et Taha veut dire chez les Arabes l'être humain, l'insan. D'accord ? Et Surat Taha, elle commence par ces deux lettres, ce nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette définition de l'être humain. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Nous n'avons pas envoyé le Coran sur toi, ou descendu le Coran sur toi, ou te révélé le Coran, le Coran, pour que tu vives dans la difficulté. Le Coran, en fait, il a été révélé pour nous afin que nous vivions dans quoi ? Dans le contraire de la difficulté, qui est la facilité. Et la difficulté amène le malheur, la tristesse. Elle bloque l'être humain dans son contexte. Elle ne lui permet pas de s'épanouir et de vivre comme le Seigneur l'a voulu pour lui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran, a révélé le Coran à Muhammad alayhi salatu wa salam et à cette nation comblée par l'amour d'Allah et sa miséricorde, afin que le Coran soit un élément de facilité et un élément et un moyen de bonheur pour cette umma, pour cette nation. D'où le fait que nous, lorsqu'on va parler aujourd'hui de l'épreuve et la foi, ou les épreuves et la foi, nous allons en parler sous les lumières du Coran en priorité. Et le Coran, avec ce sens qu'on lui a donné à travers l'exégèse de ce qui a été dit de ce verset, qui est le premier verset de Surat Taha, le Coran n'est là que pour notre bonheur. Et donc le croyant qui a appris le Coran, qui a compris le Coran, il sait très bien que le Coran n'est pas là pour la difficulté, lui causer préjudice, lui apporter des difficultés, ou le mettre dans des situations de malheur et de tristesse, loin de là. Le Coran est là pour notre bonheur, pour nous faciliter la vie, pour nous permettre de vivre bien dans cette vie de l'ici-bas. Une règle que l'imam Cheikh al-Islam fi zamanina, dans notre temps, le maître des sciences de l'islam dans notre temps, Dr Yusuf al-Qardawi, dans l'un de ses livres que vous avez entre vos mains, qui est La foi et la vie, et traduit par l'édition Risala, Cheikh Youssef Al-Qardawi nous a dit que tout individu parmi les musulmans qui vit son islamité en étant dans la difficulté, la tristesse et le malheur, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas compris l'islam. Car normalement l'islam est là pour nous rendre la vie facile, d'accord ? Nous éloigner de toute difficulté vers la facilité et nous apporter le bonheur et non pas le malheur et les difficultés. D'où le fait que lorsque nous on va parler et on va citer des exemples, des preuves, ne croyez pas que l'épreuve pour le croyant est une difficulté et un malheur. Car nous avons une règle dans le Coran al-Karim dans laquelle Allah Azza wa Jal s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Alam nashrah laka sadrak » N'avons-nous pas attendri votre cœur, ton cœur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?« Alam nashrah laka sadrak » ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Alors regardez bien ce qu'il dit. ألم نشرح لك صدرك؟ N'avons-nous pas attendri ton cœur, le cœur de Mohammed صلى الله عليه وسلم, par quoi? Par ذكر. ووضعنا لك ذكرك في القرآن. D'accord. و aussi le fait qu'Allah عز وجل قال on t'a enlevé الوزر, وزرك. والوزر c'est quoi? C'est la difficulté. C'est la lourdeur du fardeau, de la difficulté dans la vie. الذي أنقض ظهرك. Car الوزر, la difficulté dans la vie, anqada dhahrak, c'est-à-dire qu'il a alourdi ton dos. Le fardeau est trop lourd pour toi. Alors on a envoyé le Coran pour te faciliter cette tâche. Et après, qu'est-ce qu'il a dit ? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Il l'a répété deux fois pour confirmer cette règle dans le Coran al-Karim qui est العسر معه اليسر. Nous, dans notre contexte, que ce soit chez nous, les Maghrébins, dans notre dialecte, dans nos mœurs, que ce soit ici en France, on nous dit qu'après chaque difficulté, il y a facilité. Le Coran nous dit non. Avec chaque difficulté, il y a la facilité. Ce n'est pas après la difficulté, il y a la facilité. Car celui qui se dit après la difficulté, il y aura la facilité, celui-là, c'est un prétentieux. Il attend que la facilité vienne de quelqu'un autre que lui. Alors que la difficulté ne touche que lui. Le Coran nous dit non. Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est-à-dire à toi de chercher cette facilité, de faire l'effort pour l'atteindre et l'acquérir et la vivre. Cette règle est très importante parce qu'elle génère la vie du musulman et elle a été répétée à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala l'a répétée dans le Coran al-Karim par d'autres notions en langue arabe. Par exemple, dans Surat al-Hajj, Allah clôture Surat al-Hajj en nous rappelant que nous sommes issus de l'Hanifiyya. Ce qu'on appelle la pureté naturelle. Al-Fitra. Fitra taman, Fitra Ibrahim alayhi salatu wa salam. Al-Hanifiyya, c'est la pureté. Parce que le professeur sallam l'a appelé Al-Hanifiyya al-Samha. La pureté naturelle. D'accord ? Et cette pureté naturelle, c'est quoi ? C'est l'islam. Qala Allah azza wa jal, Millata abikum Ibrahim. Vous êtes dans la lignée et dans le chemin de votre père Ibrahim. C'est lui qui vous a donné ce titre. De quoi? De muslimin. Min qabl. Avant. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit aslim. Qu'est-ce qu'il a répété? Qu'est-ce qu'il a répondu Ibrahim alayhi salam? Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aslim, c'est-à-dire remets-toi à ton Seigneur. C'est-à-dire par amour, sois fidèle de ton Seigneur. Ce n'est pas, comme on a déjà dit à plusieurs reprises, soumets-toi à ton Seigneur. Car la soumission engendre, on a dit quoi? Elle engendre la difficulté. La soumission engendre l'oppression. Car celui qui est soumis, il l'est malgré lui, alors qu'il ne le veut pas. Et en islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dit Allah Azza wa Jal. En islam, la ikraha fid din. Pas de contrainte dans la religion. Dans l'islam, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. La vérité a éclaté, le mensonge a disparu. D'accord ? قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Car le mensonge disparaît, toujours. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, et on fait descendre parmi les versets du Coran, ce qui est miséricorde et guérison pour les croyants. Et il faut être croyant. D'où le fait que nous, on parle d'épreuve et on met face à l'épreuve la foi qui est en nous. Notre référence principale, nous les musulmans, c'est qu'on est croyant. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, quand il parle de nous ou qu'il s'adresse à nous, c'est avec ce titre. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Toujours, Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, il nous traite de cette manière. On est al-mu'minun, les croyants. Et donc, dans ces versets de surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala cite notre référence prophétique principale qui est Ibrahim alayhi salatu wa salam. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a prescrit dans votre religion aucune gêne, aucune difficulté, aucun malheur. Car il est impossible dans notre conscience, nous les musulmans, que notre islamité, notre islam, qui est notre foi et notre pratique dans la vie au courant, dans la vie courante, soit pour nous une source de difficulté et de malheur. Allah Azza wa Jal dit aussi, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Toutes ces paroles, elles sont dans le Coran le Karim. Et donc, Allah ne nous demande, à travers les prescriptions canoniques qu'il nous a révélées, que ce qui est dans notre possibilité. Et donc, quand Allah nous éprouve, nous les croyants, il nous éprouve selon nos possibilités. Inch'Allah ta'ala, pour introduire. Quand il y a épreuve pour les croyants, quel qu'il soit, là où il soit, elle n'est que selon sa possibilité. Allah, impossible qu'il nous éprouve par des choses que nous ne supportons pas. Obligé, quand il y a épreuve, dans un domaine, dans un lieu bien défini, dans un moment bien défini, dans un état bien défini, il faut qu'elle soit supportable pour nous. Car si elle n'est pas supportable pour nous, la règle c'est que ce n'est pas une épreuve. D'accord ? Ça ne vient que de nous. Alors il faut qu'on réfléchisse, inshallah ta'ala, à ça, à travers ce que nous allons citer à ce sujet. Alors, les épreuves et la foi. D'une manière éducative, inshallah ta'ala, et d'une manière à ce que nous puissions partir d'ici, moi et vous, avec au moins une idée sur le sujet, et au moins une idée de quelle manière nous allons vivre ce que nous avons entendu aujourd'hui de ce petit fidèle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous comble tous par sa miséricorde, il faut que le traitement soit pédagogique. Et tel que nous l'avons appris de nos maîtres, comme allamana cheikhna si Mohamed al-Khiyat hafidhahullah, il faut absolument toujours, quand on traite un sujet, donner une définition au sujet lui-même, au titre du sujet. Quelle définition allons-nous donner à ce titre? Le définir au niveau étymologique, le définir au niveau religieux, spirituel. Tel qu'Allah Azzawajal nous a enseigné le Coran al-Karim. Le Coran s'appelle le Coran, mais Allah nous a expliqué ce que c'est que le Coran. Son titre c'est le Coran, mais il nous a expliqué dans le Coran al-Karim ce que c'est le Coran. Il l'a décrit par Nour, lumière. Il l'a décrit par le Huda, la guidée. Il l'a décrit par le Kitab, le livre. Il l'a décrit par le Wahi, la révélation. Et il l'a décrit par le Furqan, le discernement. Et il l'a décrit aussi par la lecture, la récitation, la psalmodie. Et donc nous, le thème que nous avons entre nos mains, c'est les épreuves et la foi, définissons ce que c'est épreuve, inshallah ta'ala. Épreuve veut dire, dans le dictionnaire français, et j'ai vu, subhanallah al-azim, il n'y a pas une grande différence entre l'isan al-arab ou l'isan al-firinjah concernant ce sujet-là, qui est l'épreuve. Entre la langue française et la langue arabe, il n'y a pas une grande différence à ce sujet. Alors, qu'est-ce que nous dit la langue française si on regarde les synonymes de ce mot épreuve? On trouve examen. Et vous voyez très bien que dans la vie tout entière, elle est un examen. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans surat la royauté, al-mulk. Et entre parenthèses, cette sourate, c'est une sourate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'elle est, lorsqu'on l'apprend par cœur, elle est pour nous un moyen de protection des préjudices de la tombe. Dans la tombe, il y a un bonheur et un malheur. Dans l'attente du jour du jugement après la mort, les gens ils sont ou bien dans un jardin du paradis, ou bien dans une fosse de l'enfer. Et c'est une épreuve. C'est une épreuve. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des épreuves de l'akhira, de l'au-delà, c'est la tombe. Naam. فَالْقَبْرُ إِمَّا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ جَهَنَّمْ, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la sourate al-mulk, la royauté, notez bien, apprenez-le par cœur, et apprenez-le bien, et partez avec, inshallah ta'ala, c'est une sourate qui nous protège, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si nous l'apprenions par cœur. Et il a bien cité dans le hadith, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle est de 30 versets, 30 ayah. Celui qui l'apprend par cœur, elle est pour lui une protection de la tombe. Il y a des informations émanant de lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui la récite le soir avant de dormir et qu'il décède dans sa nuit, il est au paradis. Surat al-Mulk. Qu'est-ce qu'elle dit, Surat al-Mulk? Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakumu ayyukumu ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur. Dès le deuxième verset de cette sourate, Allah Azzawajal nous dit, gloire à celui qui détient entre ses mains la royauté et à qui appartient toute chose. Celui qui a, Allah, créé la mort et la vie pour vous éprouver, afin que vous montriez qui est le meilleur parmi vous. Ayyukum ahsanu amala. Et donc nous, dans notre création elle-même, nous sommes examinés. Allah nous a créés pour nous examiner. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Donc le mawt wal-hayat, il est en dehors de vous. Vous voyez, le verset, suivez bien. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Il n'a pas dit الذي خلقكم ليبلوكم. C'est-à-dire, il a خلق الموت والحياة ليبلوكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, il a été rapporté authentiquement, le hadith de Sahih Muslim, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'Allah a créé la vie comme il a créé la mort. Et que le jour du jugement, puisque c'est le jour de la vie, après le jour du jugement, il n'y a pas de mort. Qu'est-ce qui le prouve ? Allah va ramener la mort, une bête. Et un ange va la prendre, il va l'égorger devant tout le monde. Ya ahl al-jannati khuloudan la maut, wa ya ahl al-nari khuloudan la maut. Pas de mort après. Donc Allah a créé la vie et la mort en bête. Dans le verset, il a dit, il a créé la mort et la vie. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Qui parmi vous a le meilleur comportement? Qui parmi vous est le meilleur? C'est-à-dire celui qui réussit. Il réussit dans quoi? Dans l'examen. Qui est l'épreuve? Quelle épreuve? L'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie, mon frère, ma sœur. Et cette épreuve de la vie, elle commence avant même la vie qu'elle soit donnée à nous. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam dans l'au-delà et il a sorti de son dos, comme il a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi salam, il a sorti en forme de poussière de son dos toute sa progéniture. Aynan. Allah s'est adressé à eux, Alastu bi rabbikum qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, certes. Vous voyez l'épreuve? Une question, une réponse. La réponse, elle était bonne. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous être par la suite? Hein? Aussi, tout examen a besoin de quoi? Il a besoin d'énoncé, il a besoin de sujet d'examen. Le sujet de notre examen à nous est la vie. Et le sujet de notre épreuve est la vie. Donc nous sommes éprouvés dans notre vie elle-même, nous vivons. D'accord? Nous vivons et c'est parce que nous vivons qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve. Que nous soyons croyants ou non-croyants. Tout le monde est éprouvé. Mais en langue arabe, il y a deux mots qui dérivent et qui sont synonymes du terme épreuve. Ces deux mots ont une petite différence. Il y a le bala. Et il y a le btila. Note bien. Aqal alia. Al bala ou al ibtila. Ce n'est pas la même chose. Al bala, c'est pour les croyants. Ou al ibtila, c'est pour les non-croyants. C'est pas pareil. Parce que al bala, c'est un moyen d'acquérir le bonheur. Ou al ibtila, c'est un moyen de périr et de rester dans le malheur. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet, grâce à l'épreuve, au croyant qui est digne de sa foi, de réussir après l'épreuve, de devenir meilleur, de vivre encore mieux après l'épreuve. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Hadihi dunya, cette vie de l'ici-bas, sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie de l'ici-bas, sijnul mu'min. C'est la prison du croyant. C'est-à-dire que le croyant, comme le décrit yani, l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit que le croyant, comme un oiseau, que tu y as emprisonné, tu l'as mis dans une cage. D'accord? Quand est-ce qu'il va connaître son bonheur et qu'il va chanter de la meilleure des manières? Une manière qui montre et qui prouve sa joie et son épanouissement, c'est lorsqu'il est libre. Écouter le chant d'un oiseau dans la cage, ce n'est pas pareil que quand vous écoutez les chants des oiseaux qui sont en liberté. Ça n'a rien à voir. Hein? Et c'est pour ça, beaucoup de gens, ils ramènent des oiseaux chez eux, et ils écoutent yani, les chants de ces oiseaux, mais ces gens-là, ils sont toujours plus heureux quand ils sont en plein air et qu'ils entendent ces oiseaux-là en plein air et dans la nature chanter. Donc le croyant, il est emprisonné dans cette vie d'ici-bas. Par quoi ? Par la vie qui est pour lui une épreuve. Bala. Qui lui permet par la suite quoi ? La liberté, l'épanouissement, le fait d'être heureux par la suite au paradis, inshallah ta'ala. Et ça, c'est à partir de son agonie, à partir de la mort. Et c'est pour ça que nos maîtres, ils nous disent, comme il a été rapporté de Abd al-Salih Ibrahim ibn Adham, Ibrahim ibn Adham, l'un des ascètes croyants parmi les maîtres de l'islam, lui, il disait que le musulman, le croyant, dans la vie de l'ici-bas, certes, parfois, il passe par des difficultés qui, dans la nature humaine, barakallahu fik, c'est pour moi. Dans la vie de l'ici-bas, le croyant, il passe par des difficultés. Ces difficultés, ou bien, ils vont lui permettre de reconnaître les bienfaits d'Allah sur lui, le renforcer dans sa foi et le mettre dans le droit chemin d'une manière ferme, ou bien c'est le contraire. Ou bien c'est le contraire. L'épreuve. Et la vie et la mort sont pour nous, croyants, un bonheur. Car même la mort, que beaucoup de gens redoutent, beaucoup de gens frilent face à la mort, beaucoup de gens, quand ils vont voir quelqu'un en train d'agoniser, ou un mort qu'on a ramené pour faire la prière du deuil pour lui, en sa faveur, ou accompagner un cortège funèbre jusqu'à l'enterrement du mort, c'est là où ils se rendent compte de quoi ? De la valeur du temps qui leur a été accordé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'ils font des efforts pour pouvoir récupérer ce qui est perdu. Et c'est pour ça que la vie et la mort sont une épreuve. La mort, quand on la voit, elle est une épreuve. Quand on voit les autres en train de mourir. La vie elle-même est une épreuve pour nous, les croyants. Examen. Allah nous examine. Ayyukumu ahsanu amala. Qui c'est le meilleur dans l'action parmi vous. Le musulman, dans sa vie, il doit tomber amoureux de la mort. Il doit aimer la mort. Pourtant, on sait très bien que la mort, c'est une épreuve. Mais le musulman qui aime la mort, ça ne veut pas dire qu'il aime mourir. Il faut faire la différence. Hein. Il aime la mort. C'est comme certains ignorants ou ils sont savants, mais ils font semblant d'être ignorants ou par haine, ils prennent des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui donnent des sens qui ne sont pas ceux que le prophète a voulu dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité trois choses parmi lesquelles celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le plus dans notre vie de l'ici-bas. Il a dit dunyakum. D'accord ? Il a dit dans dunyakum, dans votre vie de l'ici-bas. Il n'a pas dit sa vie à lui. Car il n'est pas attaché à la vie de l'ici-bas, alayhi sallatu wa sallam. Bi abi wa ummi. Il a dit, je suis comme un voyageur. Il s'assoit dans l'ombre d'un arbre, et puis après, il se repose et il continue son chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité trois choses qu'il aime dans la vie de l'ici-bas. Laquelle ? La nôtre. Parmi ces trois choses, il a cité les femmes, n'est-ce pas ? Vous connaissez le hadith. Il y a des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les femmes, c'est-à-dire, c'était un homme à femme. Et ça prouve, yani, ou leur ignorance, afallahu anhum, qu'Allah leur pardonne et qu'il leur donne la connaissance. On est tous ignorants. Si ce n'est par la miséricorde d'Allah, on apprend de plus en plus. Ou, comme on a dit, c'est des gens qui le font semblant, ils font semblant d'être ignorants, ou ils le font exprès. C'est vraiment des savants, hein, mais des savants qui utilisent la science dans le mal et non pas dans le bien. La même chose quand je vous ai dit, moi, le musulman doit être amoureux et doit aimer la mort et non pas sa mort à lui. Car naturellement, l'être humain n'aime pas mourir. Et le musulman, c'est un être humain, comme tout le monde. Il a peur de la mort, il a peur de mourir. Mais le musulman aime la mort, comme le prophète sallam a dit, Allah a fait, habbab Allahu ilayya min dunyakum thalath. Allah m'a fait aimer dans votre vie de l'ici-bas trois choses, parmi lesquelles il a dit les femmes. Et moi, si je dis, moi, personnellement, si je dis, j'aime les femmes, est-ce que cela veut dire que je suis un homme à femmes? Si j'étais quelqu'un qui aime les femmes, n'est-ce pas que ma mère est une femme, que ma sœur est une femme, que ma tante paternelle et maternelle est une femme, que ma fille et mon épouse sont des femmes? Subhanallah. Et donc c'est cela que j'aime. Et je les aime parce que c'est des femmes. D'accord? Et c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut dire. Alayhi wa sallam. Et donc, quand on dit le musulman aime la mort, alors que la mort elle-même c'est une épreuve. D'accord? On le dit pour quel musulman et pour quel croyant? Pour le croyant qui s'attend à la mort, qui se prépare à cet examen. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit l'examen a besoin d'un énoncé, d'un sujet, n'est-ce pas? Hein? Et le sujet ici de la mort, c'est le fait de finir avec cette vie de l'ici-bas et de commencer une autre vie dans l'au-delà. Et le musulman qui sait que la mort, c'est la fin de cette vie de l'ici-bas, le commencement de la vie de l'au-delà, c'est un musulman qui s'est préparé à la fin et qui s'est préparé à un début pour une vie sans fin. Et donc c'est celui-là qui doit aimer la mort. Le prophète alayhi salam nous a dit wa uhaddithukum hadithan tahfazunahu ihfazuhu inshallah, apprenez-le par cœur. Le prophète alayhi salam a dit dans Sahih Muslim et chez les quatre sunan, le hadith rawah Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. حفظوا هذا الحديث. Apprenez-le par cœur et rappelez-vous-en. Quiconque parmi vous récite آية الكرسي, le verset de الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, jusqu'à وهو العلي العظيم. دبر كل صلاة, après chaque prière canonique, à la fin de chaque prière canonique, dès qu'il termine le salat, il récite Ayat al-Kursi. Lam yamna'hu min dukhuli al-jannati illa al-maut. Rien ne l'empêcherait d'aller au paradis si ce n'est la mort. Donc on va aimer la mort ou on ne va pas l'aimer? C'est la seule chose qu'on attend pour aller au paradis. C'est ça qui, si ça vient, il rentre au paradis. Et donc, il voudrait bien que ça vienne. Hein? Mais nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a cette peur de mourir. Mais aussi, nous sommes des croyants. Et on ne connaît pas l'avenir. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Et comment on va finir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez tous qu'en étant musulmans. C'est-à-dire, entraidez-vous à ce que chacun d'entre vous dans cette mosquée, vous vous connaissez. Wallah, c'est malheureux. C'est un malheur pour nous, les musulmans, dans notre contexte, qu'il y ait dans les hôpitaux des gens musulmans qui décèdent tout seuls. Ils mutent wahdou, miskin. Personne pour lui rappeler la ilaha illallah. Personne. Maintenant, c'est les infirmières et infirmiers, et aides-soignants et aides-soignantes qui font appel aux imams pour leur apprendre comment accompagner les gens de culture musulmane dans leur fin de vie. Parce qu'il y a des musulmans qui finissent leur vie dans notre pays, dans notre contexte, dans notre région, dans notre métropole, ici, personne autour d'eux, aucun musulman, pour leur rappeler la ilaha illallah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nis'Allah al-thabat. Parce qu'on ne sait pas comment on va finir. Donc la vie, avec son début, c'est un examen. La vie avec sa mort, c'est un examen. Wa qad sadaqa man qal, ya la fawz. Quelle réussite pour qui? Ya la fawza man wulida yabki wa hawlahu ahibba'uhu yadhakuna wa yafrahun wa mata farihan wa hawlahu ahibba'uhu yabkun. Rappelle-toi bien de cette parole. Quel bonheur pour celui qui, lorsqu'il est né, il est né en pleurant, il pleure. Le petit, l'enfant, le bébé, quand il est né, il sort du ventre de sa mère, il crie, il pleure. Il exprime quoi? Deux choses. Le fait qu'il est sorti d'un lieu où il était protégé vers un lieu où il n'est pas sûr d'être protégé. C'est comme ça que disent nos maîtres. Ou il est sorti, comme l'a été rapporté par le professeur Sallam, à un moment, quand il est sorti, Shaitan qui est avec lui, le premier coup qu'il lui donne, c'est celui-là. Parce que Shaitan, on a un Shaitan avec nous. Je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit, Shaitan, il est avec nous. On a un côté satanique, démoniaque avec nous. Le premier coup qu'il nous donne, il nous donne toujours des coups de tête, des coups de pied, des coups de cœur. Oui. Il nous poignarde dans le cœur, parfois. La première chose qu'il fait contre nous, c'est qu'il nous pique. Le professeur Assel m'a dit dans une version, Fijen Bey. Dans une autre version, Fijen Bihi. Ou sur les deux côtés, ici, ou sur un côté. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Illa Isa ibn Maryam. Ja'a liyankutahu fanakat al-hijab. Donc, sauf Isa ibn Maryam, il n'a pas été piqué par son shaitan. Mais il avait un shaitan. Quand il a voulu le piquer, il a été sur le hijab. L'ulama a dit Ibn Hajar rahimahullah a dit le hijab hada ou c'est hijab al-nur. Les prophètes, ils ont une lumière qui est dégagée d'eux dès leur naissance, ou bien le hijab, yani le ghilaf, la protection qu'il avait dans le ventre de sa mère. Bref, dès la naissance, tu es éprouvé un coup direct, tu pleures. Ou bien, tu sors d'un lieu dans lequel tu étais bien, vers un lieu où tu te sens dans le vide. Tu étais dans la protection et après tu ne sais pas. C'est pour ça que le bébé, quand il sort, ses mains, ils sont là, il attend qu'il attrape quelque chose. D'accord? Et sa tête, elle est vers le haut. Ceux qui ont eu des enfants, qui ont assisté à leur naissance, ils ont vu ça. Ils demandent qui me protège, qui me tient. D'accord? Et pour le rassurer, bien sûr, les parents, ils sont là, alhamdoulilah. Ça, c'est une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Examen durant toute la vie. Épreuve. Examen encore la mort quand elle va arriver. Le prophète alayhi wa sallam a dit dans le hadith, rapporté par Shaykhain dans les deux authenticités et d'autres livres de hadith, il a dit alayhi wa sallam, lorsqu'un compagnon lui a posé la question alors qu'il était en train de mourir, dans la fin de sa vie, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, Ya Rasulallah, innaka la tuqbad, yani tu souffres. Il a dit, na'am, karrijali minkum, comme beaucoup d'hommes parmi vous. Et dans une version, karrajulani minkum, comme deux parmi vous. Il lui a dit, c'est parce que tu nous as dépassés dans la récompense, dit, annaka fawqana fil ajr, et dans l'autre version qui dit deux, li anna laka ajran, parce que tu y as deux récompenses. Il dit na'am, al-anbiya wal-mursaloun, thumma alladhina yalounahum, thumma alladhina yalounahum. L'épreuve, ceux qui ont le plus d'épreuves, les prophètes et messagers. Puis ceux qui sont un peu plus bas qu'eux. Et puis les autres qui sont plus bas que ceux-là. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, l'épreuve ne croit pas aux croyants que lorsque tu es éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est parce que tu as commis un péché, automatiquement. Beaucoup de gens, ils disent, il m'est arrivé tel ou tel malheur parce que j'ai fait telle ou telle chose. Non, ahsin al-dhanna billah. Il faut toujours avoir une pensée positive d'Allah, c'est-à-dire toujours garder espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est grâce à cet espoir que nous avons envers Allah et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous réussissons à sortir indemne de l'épreuve. Ou lorsque l'épreuve laisse sur nous des séquelles et des cicatrices, on n'en fait plus attention. Ou lorsqu'on fait attention, on se rappelle qu'Allah Azza wa Jalla nous a comblés par sa miséricorde et qu'il ne nous reste que les séquelles ou les traces, les cicatrices. Que l'épreuve est terminée. Lorsque tu vois quelqu'un qui est éprouvé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris un dua. « Qul alhamdulillah alladhi aafani mimma btala bihi kathiran min khalqih ou mimma btala bihi hadha al-khalqa min ibadih. » Donc tu dis « Alhamdulillah, je remercie Allah par reconnaissance de ses bienfaits sur moi, du fait qu'il m'a préservé de beaucoup d'épreuves par lesquelles il a touché beaucoup parmi ses créatures. Ou bien si tu l'as vu dans une épreuve bien définie, qui m'a protégé de l'épreuve qui a touché cette créature. N'importe laquelle. L'imam al-Murri, rahimahullah, on a rapporté de lui qu'il était dans un voyage, il est rentré dans une cité, dans une ville. Il est rentré à midi. Harru shadid, la chaleur intense. Et il a dit, j'ai vu de loin une ombre qui se déplace. Et je me suis rapproché, c'est quoi ça? Et puis je voyais une créature bizarre. Et puis je me suis rapproché, c'est quoi ça? Et puis j'ai vu un homme dont les jambes sont coupées. Il n'a pas de jambes. Et les mains jusqu'au coude coupées. Il n'a pas de mains jusqu'au coude. Subhanallah. Dans la chaleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il rampe. Il rampe, il rampe, il rampe. Il a dit jusqu'à ce qu'il s'est mis dans l'ombre. Il a posé son dos contre le mur de cette ombre dans laquelle il s'est réfugié. Il a dit Alhamdulillah, alladhi afani mimma btala bihi kathiran min khalqi. Tu imagines ça? Un homme qui est éprouvé de la sorte, il remercie Allah de l'avoir préservé de beaucoup d'épreuves par lesquelles il a touché d'autres créatures. Alors l'épreuve, c'est l'examen. L'épreuve, c'est le test, nous disent dans la langue française. Et on est testé jour et nuit. On est testé et éprouvé, ou par le bien, ou par le mal. Pourquoi tu dis ça? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et inscrit l'épreuve dans notre destin. Et nous, on croit fermement dans notre foi au destin, qu'il soit quoi? Comment il est? Beau ou mauvais? Qu'il soit bon ou mauvais? Donc, il y a l'enregistrement de la cassette Hadi, ou que tu peux aller à celui qui veut dormir. Il met cette cassette, qu'il y a des gens qui sont. Ils ont des insomnies. De la cassette d'Alhamd Mikhtar ou Inasma Rasou. C'est bien, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Examen, test. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre destin, nous on croit que le destin, il est ou bien, ou il est ou bon ou mauvais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Jibril lui a posé la question, « Al-Iman, ikhtam al-Iman, les six piliers de la foi », il a dit, « Wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi ». Ah, khayrihi wa sharrihi. Il se peut qu'il soit bon comme il se peut qu'il soit mauvais. Alors s'il est bon, qu'est-ce que tu dois faire? Agir pour qu'il continue à être bon. D'accord? Et s'il est mauvais, qu'est-ce que tu dois faire? Agir pour qu'il devienne bon. Comment on a trouvé ça? Un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, c'est celui qui, sa journée, est meilleure que hier pour lui, sa veille. Et que son demain, son futur, est meilleur que son présent. Le présent est meilleur que le passé, et le futur est meilleur que le présent. On est dans quel mois parmi les mois lunaires? On est à la fin du mois de Shawwal. Qaribin mar Ramadan ou lilla? Subhanallah, comme si ça fait loin, non? Et quand Ramadan il vient, on dit, ah, ça s'est passé vite. Et dès que Ramadan est terminé, pour nous, Ramadan, ouh, ça fait loin. Ça fait longtemps qu'on l'a terminé. Ça veut dire qu'on est loin de ce qu'on était dans Ramadan. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut persister, inshallah ta'ala, et continuer. L'état dans lequel j'étais dans Ramadan, il faut que... Ça, c'est demain, quand j'étais dans Ramadan, pendant le mois de Ramadan. Pour moi, ça, c'est le futur. Il faut qu'il soit meilleur que lorsque j'étais durant le mois du Ramadan. Mais nous, on va se poser, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Ahmed? On ne peut pas être meilleur. Mais si, réfléchis bien, mon frère, ma soeur. Pendant le mois de Ramadan, tu as regretté des moments dans lesquels tu t'es mis dans les futilités. Eh oui, tu les as regrettés. C'est-à-dire que tu pouvais ne pas te mettre dans les futilités. Tu as regretté des mauvaises actions. Cela veut dire que tu pouvais ne pas les commettre. Tu as regretté le fait que tu n'as pas réussi à agir dans le bien, alors que tu avais la possibilité. Mais sache que tu as toujours la possibilité de t'éloigner du mal et de te rapprocher du bien, d'agir dans le louable et de t'écarter du blâmable. Et c'est pour ça que le futur doit être meilleur que le présent pour le musulman, et il faut l'espérer. Allahumma a'inni ala dhikrika, yeah. On le dit après quoi? Après la meilleure des adorations, salat. C'est-à-dire, tu demandes à Allah à être meilleur que dans l'état où tu étais durant la salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Yani husn min l'ibada li kent fiha dans l'état de la salat. Aussi, ils nous disent que l'épreuve, c'est l'expérience. Et l'expérimentation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous les croyants, quand il nous éprouve dans les choses que nous supportons, bien sûr, il nous éprouve subhanahu wa ta'ala pour nous permettre d'avoir de l'expérience. Pour ne pas retourner dans le même état. Pour ne pas agir de la même manière. Pour ne pas causer les mêmes préjudices et malheur. Car sachez qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Karim: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout ce qui vous arrive comme malheur, c'est à cause de ce que vous avez fait avec vos actions. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il vous pardonne beaucoup. Si nous ne nous pardonnez pas beaucoup, malheur à nous, encore pire. Ça, c'est juste le peu. Regardez bien. Les épreuves de la vie. Au Maroc dernièrement, rien qu'hier, il y a eu des morts. Moi, j'ai vu Al Jazeera. Al Jazeera traduit un Marocain qui parle arabe. Subhanallah, j'ai dit, c'est bizarre ça. Déjà vu ça, toi? Maghribi qui hadar bil arabiya, ou le journaliste Al Jazeera, celui, le rapporteur, il traduit. Pourtant, il parle arabe. Le Marocain, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Kanou bzef dil mouta. Et kanou le rapporteur m'arrache bzef. Nous, les Arabes, on dit bzef, les Jazéniens, on dit yasser. Le rapporteur de Al-Jazeera, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu deux morts. Mayitain. Subhanallah. Le doula, le ministre, quand il a intervenu dans la chaîne marocaine, il a dit, tout va bien, il n'y a pas de mort. C'est comme ça. Hein? Tout va bien. Allah yibarak fi amr, sidi. Tarbina alayha hadi, sidi. Donc, regardez les malheurs. Fait le Maghrib. Ou la fait le Jazair. Waqa'at fait le Jazair aussi. Fayadanat. Matoun nas. Fait Tunis, un peu. Moins. Fait le Yémen, hier et aujourd'hui. D'accord? Est-ce que nous, on est épargnés? Vous êtes sûr de vous? Oui. Moumkin ce soir, hein. Ça arrive lorsque les gens dorment, hein. Vous savez, comme les GIGN, ma proche GIGN, CRS ou GIPN, ou le manaraf, quand ils interviennent, il faut racheter les dealers que nous n'avons pas. C'est là où ils interviennent. Ils kassrou le bab ou ils dorment. Donc, le malheur, il arrive lorsque les gens rafiloun, dit le Coran al-Karim. Nous n'avons pas. Qa'iloun, dit le Coran al-Karim. Ils font la sieste. Parce qu'il y a des gens qui font la sieste à nous. Il y a des gens qui yuqatti'ouna ayyamahum wa layalihim. Ben Nahar, tu le trouves dans les marchés, en train de tourner, les mains derrière le dos. La nuit, il découpe la nuit en plusieurs chaînes. Hatta la télécommande fait à combien de touches? Il y a 10 touches, il n'y a que du 0 jusqu'au 9. Ça y est, c'est plus possible. Maintenant, c'est 400, 500, 600 chaînes qui douzent l'ilakem là. On voit, il tourne d'une chaîne à une autre. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, Adam. Et donc, celui-là, il est en train de tuer sa vie. Qu'est-ce que c'est? L'autre fois, j'étais en train de lire un petit peu des informations. Parmi les infos, ils disent qu'ils ont calculé le mudda. Combien de temps nous passions à dormir, les gens normaux, dans notre vie normale, combien? 8 ans. 8 ans, nous sommes nés, on dort. Et combien de temps on passe à faire nos lacets? 3 ans. C'est pour ça qu'il faut acheter des chaussures sans lacets, pour ne pas s'enlacer. Expérience. Allah Azza wa Jal veut que nous puissions acquérir de l'expérience. Regarde le bled, par exemple, au Maroc. Pourquoi ce déluge? Parce que les infrastructures n'existent pas. Les gens, ils construisent les maisons, ils construisent rien en dessous des maisons. Et après, tout part. Des maisons sans qu'il y ait de plan, ni de plan d'urbanisme, ni les égouts, ni rien du tout. Hatta Daoula, elle fait des égouts qu'à Dekda. Et après, ça se bouche, et après, inondation totale. Regardez Paris. N'essayez-vous faire mot. Paris, dans quoi ils ont construit le métro? C'est dans les égouts, l'Qadam, les anciens égouts. Sauf les égouts Gdesh. Et d'où vous avez un train, Kamel. Ahna, il y a des égouts, mais il faut faire une main. Et ça arrive des malheurs, wal'iyadu billah. Et ça, à cause de quoi? À cause de la mauvaise compréhension de cette épreuve, de l'expérience qu'on doit acquérir. Le haraka al-islamiya, le mouvement islamique, dans lequel nous avons étudié, nous avons eu cette expérience de la vie en tant que musulmans, ce mouvement islamique n'a pas pris le sang. Il ne prend pas le sang. Pas tout entier, mais la plupart. Car il y a eu des malheurs à cause du mouvement islamique dans certains pays musulmans, notamment même en France. Il y a eu des problèmes causés par des gens appartenant au mouvement islamique. Ces problèmes, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté à nous par la suite? Des préjudices, des problèmes. Naam. C'est pour ça qu'il faut en tirer le sang. L'épreuve, c'est, comme ils disent, l'expérience, une expérimentation pour trouver une solution. D'accord? Trouver une solution à quoi? Au problème. Au problème. Aussi, dans les sens donnés au terme épreuve, il y a le terme calamité. Et le terme calamité, on le trouve dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal l'appelle dans la langue du Coran al-fitna. D'accord? Al-fitna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim wal-fitnatu ashaddu min al-qatl. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. D'accord. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Pour vous les musulmans, la calamité, l'épreuve dans votre vie et dans votre islamité que peut causer pour vous celui qui a haine contre votre idée, qui est l'islam, d'accord ? Elle est pire que le fait de vous déclarer la guerre avec les armes. Car les musulmans peuvent vivre au bien, comme ils peuvent vivre au mal. Face à qui ? Face à celui qui porte la haine contre eux et contre leur idée de l'islam, leur idéologie. Hein ? Le mouvement islamique, les musulmans, quand ils sont face à la difficulté, ils deviennent quoi ? Soudés, n'est-ce pas ? Rappelez-vous, la fin des années 80, début des années 90, on trouvait les mosquées pleines. Dire Qiyam al-Layl, taqala sali. Qiyam al-Layl, jamais, yani, plein. Les musulmans, ils s'entraident entre eux. À l'époque, c'était problème en Afghanistan qui était terminé, la Tchétchénie, l'Algérie, la Bosnie. On a pleuré pour la Bosnie. T'aqlou le ma t'aqlou, hein? Bon, les jeunes, ils étaient encore petits. Ma'afouch alej kenbkiou. Kenbkiou, ça fait. Hein? Ou kouna, on s'entraidait. Ou ma kanch adna chauffage, hein? Les mosquées qlil, hein? Ici en France. Il n'y avait pas les murs blancs décorés. Bhali andkoum daba. Dans ce lieu même. Kunt kanji ana, je suis venu ici, hein? La mosquée, elle était toute petite. Ou zarbiya ma kanch a tapiada. Del plastique. Donc le kishri war khis fil bled. Et c'était très beau. Très bon. Wahad la fraternité ou là. Et on était bien serrés dans la mosquée. Et tendres l'un vis-à-vis de l'autre. Serrés mais tendres. Et on s'aimait vraiment. Quand il y a la difficulté, on se soude. On est bien. Mais quand c'est tout va bien, on tombe dans le laxisme. Hein? Et après, donc, on ne vient pas à la prière de l'Fajr. Hein? Et puis, je ne donne pas assez pour la mosquée. Pourquoi je ne donne pas assez pour la mosquée ? Ben parce que je dois acheter telle ou telle chose. Ou on dit l'assurance de la voiture. Ou l'assurance de la dar. Ou l'assurance de la carte bleue. Ou la carte verte. Ou la carte rose. Ou la carte... Ah non, la carte rose, non. Astaghfirullah. La carte jaune. Avant ça, chez les non-musulmans. Maintenant, un musulman, il ouvre son... Subhanallah, le musulman, maintenant, son portefeuille, il n'ose plus le mettre. Il a une poche derrière. Il ne peut plus le mettre. Pourquoi ? Parce qu'il va être déformé. Tellement il est gros. Le flous et les cartes de crédit. Il y a Auchan, il y a Carrefour, il y a... Et quand tu demandes, yani, un miskin yji, il me donne soulo. Et lorsque il arrive quelque chose de mal à quelqu'un, on le connaît même pas, on le sait même pas. Lorsqu'il y en a un qui manque dans les rangs, on se rend même pas compte. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent absent. Parce que si on était assidu dans les rangs à la mosquée, on se rendrait compte de ce qui manquait. Dans les rangs. Épreuve, hein? Allah, épreuve. C'est un bien, hein? Vous voyez le bien. La baisse alina, alhamdulillah. Avant, on ne pouvait pas porter jilab en kharjou. Toujours, ils nous embêtaient, yakulillah. Par les regards. Il faut qu'il goulak andik l'hiya ou qaf, ou rin les papiers, le police. Maintenant, tout, tranquille, yak. Hein? Hein? Mais, hada la yun bi'ou bi khayrina, faites attention. Ça ne veut pas dire que ce qui nous attend, est meilleur que ce que nous vivons maintenant. Ça peut être pire. Ça peut être ouré, ouré, ou l'amcha, ou l'a'ma siru khalli. Yakulillah. Agdek y goulou adna fil marib. Il faut faire très attention. Allah Azza wa Jal dit Wayam koruna, Wayam korullah, Wallahu khayrul makirin. Il a dit Wayam koruna, Ali. Aqal mazian, rappelle-toi. Ibn Kathir, il explique bien, regardez ce verset. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il t'a dit, il n'a pas dit وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ. C'est-à-dire que humarahum yamkurun, ils préparent. عندك يحسب لك الناس راه ناعسين كيما حنا. Quand quelqu'un حنا parmi nous il est en vacances. Vraiment il est en vacances. En vacances. ينعس حتى ل 10h midi des fois. Midi. حنا dans notre organisation, on va dire, de l'islam ici, on a pu grâce à Allah Azza wa Jal mettre en place يعني un groupe d'imams qu'on a appelé les imams du Nord. Rassemblement des imams du Nord. D'accord ? On a rassemblé autour de nous une dizaine qui sont assidus. Alhamdulillah Rabbil Alamin qu'il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Des imams. Vous savez, imam c'est quoi ? Guide ta'al muslimin. Tu l'appelles pour une réunion que tu as fixée un dimanche matin à 10h au Wamazan Na'as. L'imam, il dort jusqu'à 11h. C'est une tradition chez les imams d'Yenna. Parce que Salah al-Fajr. Hada l'imam. Alors imaginez les autres. Imaginez les autres. A'ammat al-Nas. Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit. Il a dit. Idha iqtarafa al-alimu al-dhanba, fasaqa al-amiyu. وإذا فسق العام وإذا فسق العالم كفر العامي. Donc العام يعني les gens ordinaires ils sont plus bas que les imams. Si l'imam commet une erreur, la personne ordinaire parmi les musulmans commettrait le quoi? La perversité. Et si l'imam tombe dans la perversité, عامه الناس يكفروا, il quitte la religion parce qu'il voit son exemple comment il. Et ça on en a, et on en a, et on en a. Parmi nos jeunes, il y en a qui attendent les vacances avec impatience. Qui attendent les vacances, fouqash. Parce qu'ils prennent rien dans le nas, rien dans le frash. Ils ne quittent pas le lit, wal'iyadu billah. Alors qu'on est appelé, inshallah ta'ala, à agir. Et dans cette vie, il y a cette fitna, cette calamité dans la vie. Et cette calamité, elle peut apparaître dans l'apparence, comme beauté, comme chose belle et bonne pour nous. Et en réalité, c'est le contraire. Le prophète Allah Azza wa Jalla dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous aimez quelque chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et le contraire, il se peut que vous détestez quelque chose alors qu'elle est bonne pour vous. Regardez bien. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Et c'est pour ça qu'il l'a éprouvé. Et il attend de lui quoi? Il attend qu'il agisse. Qu'il fasse quelque chose. Pour changer. Pour ne pas rester dans l'état où il était. Car l'état où il était, dans lequel il était, c'est cet état-là qui a été la circonstance de l'épreuve. إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِبْتَلَاهُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَهُ سبحان ربي العظيم. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il l'éprouve pour qu'il montre. يَسْمَعَ صَوْتَهُ il entend sa voix, mais aussi il entend Allah عز وجل parler de lui. Qu'Allah entende parler de ce fidèle. Il تحرك, il bouge, il change son destin. Nous ne sommes pas ceux qui disent, comme Yahoud, qui disent Allah ne sait rien, c'est nous qui faisons tout ce qu'on veut. Nous ne sommes pas comme ceux qui disent, comme certains chrétiens, Allah a tout écrit et nous on n'agit dans rien. La hilata lana. Ça c'est injuste. Ça serait un Dieu injuste qui pousse la personne dans la mécréance, l'infidélité et la tyrannie pour la mettre en enfer. Ça serait injuste. Nous, non. Allah Azza wa Jal nous éprouve. Et nous avons les moyens et la capacité de sortir de l'épreuve et de vivre bien après l'épreuve. Et na'am. Et c'est pour ça que l'un de nos maîtres nous explique cela. Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij Salikin, les sentiers des itinérants, il nous dit que le croyant, pour Allah, c'est comme l'or pour nous. Vous voyez, on est dans une épreuve de nos jours, de la crise économique qui a suscité beaucoup de blabla, beaucoup d'actions, d'accord ? Et elle a été causée à cause des actions dans la bourse. Hein? Et donc, la chose la plus chère qui existe dans la vie, c'est quoi ? C'est l'or. C'est pour ça qu'on mesure et on compte avec l'or. Même zakat, c'est par rapport au lingot d'or, un nisab. Et donc, Ibn Qayyim dit, le croyant est pour Allah comme l'or pour vous. Pour pouvoir bénéficier de l'or, quand vous le sortez de la terre, qu'est-ce que vous faites ? Parce que quand tu sors de la terre, l'or, il est mélangé à quoi ? À d'autres minéraux. Hein ? Qu'est-ce que tu lui fais ? Tu le mets, hein, dans le feu, la chaleur, l'épreuve. D'accord ? Pour qu'il sorte pur, de l'or pur. Chaque jour, hein, chaque jour, on est comme ça. On finit notre vie dans la journée, avant de dormir, avant de dormir, et bien sûr, il faut qu'on fasse le compte. Il faut qu'on sorte notre propre personne comme l'or qui sort du feu. Pur, inshallah ta'ala, avant de dormir. Mais pur de quoi ? De nos péchés. Par le repentir avant de dormir. Calamité, fitna. Allah Azza wa Jalla dit, « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. » Allah subhanahu wa ta'ala a cité une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a développée dans un hadith rapporté par muslim. Il est dans Riyad al-Salihin de Nawawi, que vous avez entre vos mains. Le premier hadith cité dans le chapitre Sabr, la patience, vous verrez, c'est un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'Ghulam. Vous connaissez l'histoire de l'Ghulam, hein? Et Allah Azza wa Jalla a cité cette histoire brièvement dans le Coran al-Karim. Hein? Cette histoire citée dans le Coran al-Karim, Allah a cité le terme calamité, fitna. Allah Azza wa Jalla dit inna alladhina yaftinuna al-mu'minina wal-mu'minat inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq inna alladhina fatanu. Il a cité le terme fitna, calamité. Lakin subhanallah, beaucoup de gens quand ils entendent ce verset là ils croient, et c'est souvent c'est des gens qui ont commis quelque chose contre les musulmans, ils croient que on parle d'eux. C'est pour ça que يعني, les imams, vous verrez, hein, quand vous priez derrière un imam fiqih, hein, de l'bled, il ne récite pas cette sourate. Hein, salawat al-khams. Si le jma'a yqulu, à qui hadra alina ? Il parle de nous, alors que c'est la parole d'Allah, le Coran qui t'kallam. Parce que pour eux, ils ont dû faire du mal à cet imam. C'est pour ça qu'il a cité ce verset. Et il les met en enfer. Sous le verset, il met en enfer ces gens-là. Mais en réalité, le verset ne parle pas de le fitna que nous connaissons, nous, qui est les problèmes causés dans la vie. Il parle de calamité, il parle de préjudice, de tyrannie. C'est-à-dire ceux qui tyrannisent les croyants et les croyantes. Parce que dans le peuple Hada, le roi, il a mis les croyants et les croyantes où ? Il les a jetés dans le feu. L'Ukhdoud, Naridat et l'Waqoud. Et donc Allah Azza wa Jalla dit inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam wa lahum 'adhabu al-hariq. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'épreuve dans sourate Al-Ankabut. Wallahi, ikhwa, regardez la sourate, l'araignée, dès le deuxième verset, vous verrez. Premier verset, Allah Azza wa Jalla dit alif lam mim. Deuxième verset, afa hasiba an-nasu an yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Voyez les versets, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que tout individu parmi les gens qui se prétend par la parole croyant, il faut qu'il s'attende à quoi? À l'épreuve. pour qu'il prouve, lui, et qu'il sorte avec une preuve comme quoi il est véritablement croyant. D'accord ? وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا Les véridiques. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ Et ceux qui ne le sont pas après l'épreuve. سَأَلُ اللَّهَ نِعَفِيَنَا Wallah, c'est pas facile. Hein? L'épreuve, elle est... On ne sait pas est-ce qu'on va réussir ou pas. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah l'afou l'afiyah. Rappelez-vous-en, inshallah. Al-Abbas, Amma Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu. Il lui dit, ô messager d'Allah, mes dents sont tombées, ma chair s'est attendrie, mes muscles, et mes os se sont usés. Et beaucoup d'actions parmi les actions des croyants sont devenues difficiles pour moi. Je ne peux pas les agir ainsi. Alors, indique-moi quelque chose par lequel j'invoque Allah Azza wa Jal et qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aide dans la fin de ma vie. Il a vieilli l'Abbas, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, « Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah, salallah al-afiyah. » Demande à Allah de te protéger. La protection. L'afiyah. Nous avons dans le Maghreb, l'afiyah, c'est quoi ? L'afiyah, tu sais ce que c'est l'afiyah ? Le nar, le feu. Non, l'afiyah, c'est la protection. L'afiyah, c'est la protection. Et aussi, en langue arabe, l'afiyah, c'est le contraire de la maladie. C'est la bonne santé. D'accord ? La santé. Il y a l'afiyah. Après, l'Abbas encore pose la question au prophète. Ça lui dit, Zidni, rajoute-moi encore. Il lui dit, Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah, Salallah al-Afiyah. Il lui dit encore, Zidni, rajoute-moi. Il lui dit, Ya Abbas, Ya Amma Rasulillah, Salallah al-Afwa wa al-Afiyah. Shift? Al-Afu wa al-Afiyah. Aisha radiallahu anha. Al-Afu, c'est le pardon. C'est le pardon total. Ou l'afiyah, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa afiina wa afu anna. Aisha radiallahu anha, comme il a été rapporté dans le Bukhari, est venu voir le professeur Assam, il a dit, Rasulallah, si Allah me permet de vivre la journée et la nuit de l'Qadr pendant le Ramadan, que me conseilles-tu de dire ? Qu'est-ce qu'il a dit le professeur Assam ? Nous le connaissons tous. Allahumma innaka afoun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. D'accord ? Le hadith hada bi akmalihi dans sa totalité est chez Tirmidhi. Aussi, il y a une partie rajoutée dans ce hadith chez l'imam Abu Daoud. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Hadi karimun and l'imam Abu Daoud. Et une totalité que nous avons citée, elle est dans Tirmidhi, et une partie and al-Bukhari. Rahimahullah ta'ala. Et donc l'afou ou l'afiyah, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. De quoi ? De tout préjudice, de toute difficulté, de toute épreuve dans cette vie de l'ici-bas. Mais quelle épreuve ? Une épreuve dans laquelle on risque d'échouer. Car nous sommes faillibles. Wallahi, nous sommes faillibles. Et le malheureux, c'est celui qui est comblé par l'échec et qui décède dans l'échec. Il meurt alors qu'il a échoué. Il est en plein échec dans l'épreuve. Comme celui qui meurt alors qu'il est dans la totale désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou celui qui décède pendant qu'il est en train de voler ou de commettre l'adultère ou la fornication. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Au moment même, un moment qui passe vite. Et après, le croyant, il regrette, le véritable croyant. Mais, on est en totalité comblé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah azza wa jalla, dans le verset que nous avons cité auparavant, il a dit, « Wa ya'fu an kathir » ou fi qira'at l'imam Warsh, « Wa na'fu an kathir » « Wa na'fu an kathir » Allah azza wa jalla pardonne beaucoup. Aux gens. S'ils ne pardonnaient pas beaucoup aux gens, malheur aux gens. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit, wal asr, innal insana lafi khusr.
L'être humain est dans la perdition, vraiment. C'est une certitude, inna. Mais il fait exception. Illa alladhina amanu. Et parmi alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawassu bil-haq, wa tawassu bil-sabr. Donc, aussi, l'épreuve, c'est défini comme catastrophe. Et nous les connaissons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le hadith, qui parle, il y a plusieurs hadiths qui parlent de les signes de la fin des temps, il dit, alayhi salatu wassalam, vers la fin des temps, yakthur, takthur az-zalazil, wal-harj, zalazil, c'est les tremblements de terre, les catastrophes naturelles. Wal-harj, c'est quoi? Al-qatl, les guerres. Et vous voyez que c'est notre cas, vraiment. Combien de guerres sont déclarées de nos jours, hein? Des fois pour des futilités. Hein? Et aussi, bien sûr, c'est accompagné avec des catastrophes naturelles que nous voyons tous les jours, chaque année, des catastrophes naturelles, elles arrivent. Une là, une l'autre de l'autre côté, une autre dans un autre côté, une dans notre pays, ici en France. Ça nous est déjà arrivé en France, il y a eu des catastrophes naturelles, pas loin d'ici, de Valenciennes. Et il y a eu une ville qui a connu dernièrement une catastrophe naturelle. Les gens se sont trouvés dans la rue. Leurs maisons ont été détruites. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à cette expérimentation qu'Allah Azza wa Jalla veut pour nous, et cette expérience de tirer le sang et d'aller vers l'avant, et que l'avant soit meilleur que le futur soit meilleur que le présent. Inch'Allah ta'ala. Aussi, ils disent c'est le désastre, c'est le fléau, c'est le malheur. Le fitna, l'épreuve, c'est le fléau, c'est le malheur et c'est le désastre. Ça, c'est par rapport à l'épreuve. Si on prend ces épreuves et on les met face à la foi, qu'est-ce que la foi, mon frère, ma sœur? Au niveau religieux, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Nasa'i, le hadith, il est daif, mais il est renforcé par Ijma' al-Sahaba. Sahaba tous, ils ont dit la même chose. Le hadith dit quoi? Al-Iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. La foi, c'est tout ce qui est conviction dans le cœur et qui est traduit par l'action. Obligé. Et l'imam Ali قال بالجنان. Il est traduit par les membres que nous avons dans notre corps. Et donc, notre foi, c'est quoi? C'est d'abord une conviction, comme l'ont traduit et comme ils l'ont défini dans le dictionnaire. Notre foi, c'est une croyance. Notre foi, c'est une confiance. Car celui qui n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi ne pourra pas faire face à l'épreuve. Celui qui n'a pas cette conviction vis-à-vis d'Allah, le protecteur, celui qui récite tous les jours surat al-Fatiha dans les cinq prières, alors que dans surat al-Fatiha, il dit « Ihdina al-sirat al-mustaqim » Et avant de dire « Ihdina al-sirat al-mustaqim », qu'est-ce qu'il dit ?« Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Conviction que tu ne peux être guidé dans le droit chemin que lorsque tu mets en évidence et en pratique « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons uniquement et c'est auprès de toi que nous cherchons refuge. Fidélité à Allah, conviction vis-à-vis d'Allah, mais en même temps, confiance en Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le protecteur. C'est pour ça que vous trouverez ceux qui ont la foi, malgré qu'ils sont pauvres, il leur arrive un malheur, ils ne quittent pas leur religion. Ils ne quittent pas la religion, ils restent toujours musulmans. Il ne quitte pas la prière. Au contraire, il devient plus assidu à la salat, à la prière. Il ne quitte pas de dua. Au contraire, il fait encore plus de dua. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, comprends une chose très importante et simple. Très simple. Il y a des gens, wallahi al-azim, il y a des gens, s'ils vivent dans l'aisance totale, sans problème, yakfuruna billah. Ils n'y croient en Allah. Il y a des gens, s'ils vivent dans la pauvreté totale, yakfuruna billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kada al-kufru an yakuna Kada al-faqru an yakuna kufra. La pauvreté a failli être yani, synonyme de quoi? De kufr, de négation. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait trois fois Allahumma inni a'udhu bika mina al-kufri wal-faqr matin et soir. Ô Seigneur, je te demande protection contre le kufr wal faqr, qarana baynahuma. Il les a fusionnés, alayhi salatu wassalam, l'un à côté de l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, Allah nous touche par la pauvreté pour qu'on revienne à lui. Il nous touche par la maladie pour qu'on revienne à lui. Il nous touche par les problèmes dans la famille pour qu'on cherche solution auprès de lui. Chouf, un père ou une mère, quand son enfant, le père et la mère, qui sont vraiment des gens intelligents et croyants, quand son fils ou sa fille commet une erreur vis-à-vis de lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? N'est-ce pas qu'il dit « Ya Rabbi, dit Ya Rabbi ». Oui ou non? « Ya Rabbi, redbi ». Remets-le dans le droit chemin. Hada le plus intelligent, yak. Hada le croyant, le père croyant et la mère. Directement, il cherche refuge auprès d'Allah. Le prophète, alayhi salam, Aïcha disait, « Kanat qurratu aynihi s-salah ». La parure de sa vue, c'était quoi? As-salah. « Wa kullama ahammahu amrun hara'a ila s-salah ». Et à chaque fois qu'il a peur de quelque chose, alayhi salam, qu'il arrive un malheur à la communauté, qu'est-ce qu'il fait? Directement salat. Ou salat, arftu billahi du'a, yakulilla. Salat, yi du'a. Anta du'a Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa akrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le moment dans lequel il est plus proche de son Seigneur, le fidèle, est le moment de la prosternation. Yi du'a Allah, azza wa jal. Et donc, confiance, fidélité, mais aussi sincérité. La foi est synonyme de quoi? De sincérité. Car il n'y a pas de foi sans sincérité. C'est pour ça, nos maîtres, l'imam Hassan ibn Rahimahullah, quand il a mis en ordre 10 points qui sont très importants dans le cheminement du croyant, le premier point de son cheminement, il a parlé de quoi? Il a parlé de compréhension. Deuxième point, il a parlé de sincérité. Comprendre quoi? Comprendre la foi. Comprendre que je suis croyant, comprendre que c'est Allah mon Seigneur. Et c'est automatique, c'est naturel. Quand tu connais quelqu'un, tu l'aimes. Quand tu connais quelqu'un, tu t'attaches à lui. Quand tu connais quelqu'un, tu es fidèle à lui. Et quand tu connais quelqu'un, tu es sincère vis-à-vis de lui. Si tu ne le connaissais pas, tu n'aurais rien de tout ça. Impossible. Et rien de tout ça, ça veut dire pas de foi. Et la foi qui peut nous faire supporter les préjudices, la douleur, les problèmes des épreuves, quand c'est, l'épreuve c'est des problèmes, cette foi c'est celle dans laquelle se trouve la conviction, la croyance, la confiance, la fidélité et la sincérité. Aussi, ils nous ont dit que la foi c'est la droiture, elle est synonyme de droiture. Celui qui n'a pas la foi, dans le dictionnaire français, ça veut dire qu'il n'est pas droit. Eh oui, référez-vous, regardez les dictionnaires de synonymes, vous trouverez. La foi est synonyme de quoi? Droiture, subhanallah al-azim. Yukhriju min afwahim ma la yuridun. Aussi, la foi est synonyme de religiosité. Et synonyme aussi d'honorer les promesses. Car celui qui n'a pas foi, il n'honore pas ses promesses. Et le musulman, parmi les signes, les preuves évidentes du fait que tu es musulman, c'est que tu dois honorer tes promesses, tes engagements. Combien d'engagements nous en avons? Fakrouin, individuellement, réfléchissez. Avant de dormir, réfléchissez à notre fardeau. Wallahi, on a plein d'engagements. C'est pour ça, des fois, les gens, il y a des gens qui disent « J'aurais pas dû me marier. J'aurais dû rester célibataire. » Il y en a qui me disent « Ya Rabbi Djouj. » كتقول الله يجوجك ما كيقولش امين كيقول امين 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 حتى كتولي مين 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 يعني منين او تنمو بغى يتزوج مسكين يعني غيطرطخ va exploser. Mais tu ne sais pas quelle responsabilité tu vas avoir après. Après, ça tombe sur la tête. Ah, Allah y'afina, goul Allah y'afina. Men djoujouj. Il vaut mieux rester célibataire, yek. Non? Fia ou fia? Fia ou fia? Fia maqal. And l'imam Malik fia qawlan. Il y a deux paroles chez l'imam Malik là-dessus. Non, sahih, and l'imam Malik, الزواج يعني فرض. وفيه رواية عنه تقول أنه سنة من سنن الأنبياء. نعم الإمام مالك il a deux versions sur son avis sur le mariage. Il y a une version qui dit c'est obligatoire et une autre qui dit c'est une tradition prophétique. Donc les responsabilités que nous avons vis-à-vis de nos engagements et les promesses que nous avons entamées que nous avons pris en à charge de chacun d'entre nous, réfléchissez avant de dormir. Individuellement, vous verrez que le sommeil va avoir du mal à venir. Et c'est un bon signe. Wallahi, mon frère, ma sœur, si le sommeil a du mal à venir parce que tu réfléchis à tes promesses et à tes engagements, ça veut dire que Allah veut un bien pour toi. Parce que celui qui naisse tranquille, comme si rien n'était, c'est un irresponsable. La personne responsable, c'est celle qui réfléchit mille fois au sujet de ses responsabilités et qui gère les choses, incha'Allah ta'ala, comme elle peut. Wattaqullaha mastata'tum, dit Allah Azza wa Jal. Craignez Allah selon vos possibilités. Aussi, ils disent que la foi est synonyme d'honneur, l'honneur. D'accord ? C'est-à-dire que celui qui a la foi, il a le sens de l'honneur. Et cela veut dire que la foi est un honneur. Le fait que je me proclame quelqu'un qui appartient à une communauté de foi, c'est un honneur. L'umma al-islamiyya. Et donc, الشاعر يقول, يعني le poète dit أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمد رسول الله وزادي وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله وأهلي أمة الإسلام هم حزبي وحزب الله وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله. Et il nous dit dans, c'est une belle poésie de l'imam Cheikh Yusuf al-Qardawi, hadith, poésie de Yusuf al-Qardawi quand il était dans les prisons d'Égypte. Anal Muslim. Il a un diwan Cheikh Yusuf al-Qardawi. Hein. Et il se vend dans le marché, hein, qui tape les poésies. Et il dit que le fait qu'il appartient à la communauté de l'islam, c'est un honneur pour lui. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne veut pas avoir un discours pour les musulmans qui les fait tomber dans le désespoir. Le discours qui dit vous êtes mauvais. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Djil al-khutbah al-jumu'a ou dans un dars et tu n'entends que vous avez fait. Vous avez commis, vous avez un, et vous êtes, et vous, c'est-à-dire moi, je ne le suis pas parmi vous. Et ça, c'est une erreur de beaucoup de prêcheurs. Le fait de se dissocier des gens à qui il expose son sujet. Car il est sujet de son sujet, obligatoirement. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Nous, on veut un discours qui ne fait pas tomber aussi les musulmans dans la victimisation. Nous sommes des victimes. Ce qui nous arrive, ce n'est pas à cause de nous. On n'a rien fait de mal. Ils ont fait contre nous. Ni dans un discours de prétention. On est les meilleurs. D'accord ? Et tout ce qui est bien dans cette vie ne vient que de nous. Ça, c'est pas bon aussi pour nous. Et ce n'est pas vrai. L'islam s'adapte et adopte depuis X temps. Naam. Nous, ce qu'on veut, c'est le discours divin. Le discours divin. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه وعد ووعيد. Dans le discours divin, il y a ce qui fait peur et il y a ce qui donne l'espoir. Les deux. Entre les deux. Il ne faut pas qu'on fait tomber les musulmans dans هذه الترهات et ces futilités et les gens ils partent après notre discours sans repère. Hein? Où ils repartent avec le désespoir, où ils repartent avec la prétention. Nous, on veut que les musulmans partent de notre discours avec l'amour d'Allah. Wallahi, tout simplement. Aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, car celui qui aime Allah, il aime son édifice. Et l'édifice d'Allah, c'est sa créature. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Aussi, les épreuves, elles sont mauvaises, comme on a vu là, comme elles sont bonnes. La richesse, c'est une épreuve. Les enfants sont une épreuve. L'argent est une épreuve. L'époux et l'épouse, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans surat Taghaboun, qu'est-ce qu'il dit? Il dit subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhal ladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwun lakum fahdharuhum. » Parmi vous, les époux et les épouses, et les enfants des croyants, il y a des épreuves pour vous. Des ennemis cachés. احذروهم, faites attention à l'avance. Car celui qui n'élève pas son enfant par une pédagogie islamique, avec une éducation islamique, dans le bon sens du terme islam, l'enfant qui n'a jamais entendu des mots d'amour, qui n'a jamais été câliné, qui n'a jamais été mis en valeur. L'enfant qui a toujours été mis en valeur, toujours câliné. Hein? Toujours il n'a entendu de nous que des bonnes paroles, des belles paroles. C'est foutu pour cet enfant. Il va grandir, il va être un ennemi au lieu d'être un ami. Un malfaiteur au lieu d'être un bienfaiteur. Sauf si Allah Azza wa Jal nous comble par sa miséricorde. Alors il faut vraiment comprendre comment et savoir faire, avoir ce savoir-faire, comment éduquer nos enfants, comment faire en sorte que nos enfants soient pour nous, dans le futur, un bonheur et non pas un malheur. Soit pour nous un ami solide, fort et aussi tendre pour nous. Hein, à la fin de notre vie. Parce que quand on va vieillir, et on a commencé, on devient comme les enfants. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. Ce soutien, il faut qu'il soit solide et tendre en même temps. Solide et tendre. Et donc, Allah Azza wa Jal dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwul lakum fahdharuhum » C'est-à-dire, faites attention avant qu'ils ne deviennent ennemis. Préparez-vous à ce qu'ils, et préparez-les à ce qu'ils ne soient pas par la suite des ennemis pour vous. Car s'ils sont ennemis pour les autres, ils le sont pour vous. Malheur à celui qui est appelé au poste de police parce que son fils a cassé une voiture. Il a fait du mal et du tort à l'autre, mais en même temps il l'a fait à son père, qui s'est déplacé jusqu'au poste de police pour payer ou pour signer. C'est un déshonneur pour son père. Et d'autres cas que vous connaissez au quotidien. Aussi, Allah Azza wa Jal dit « Innama amwalukum wa awladukum fitna ». Le fitna, on a dit tout à l'heure, elle peut signifier l'épreuve, comme elle peut signifier quoi? La calamité, le préjudice. L'amwal ou l'awlad peuvent être un problème pour nous. Naam. Aussi, Allah Azza wa Jal dit « Al-mal ou al-banoun » زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Donc l'espoir réel auprès de ton Seigneur, ce n'est pas ton argent et tes enfants, comme le prétendent beaucoup de gens. Mais l'espoir réel, c'est les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, ton enfant, s'il agit dans le bien et qu'il est éduqué dans le bien, il sera pour toi une bonne action. La preuve, Nuh alayhi salam, lorsque il a dit Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta arhamur rahimin. Lorsque son fils a été pris par la vague du déluge, il s'est adressé à Allah, il a dit au Seigneur, tu m'as promis de sauver les miens, ma famille, les proches. Allah Azzawajal lui dit, non, il ne fait pas partie des tiens. Il ne lui a pas dit, il est un mauvais enfant, il est un mauvais successeur. Il lui a dit en arabe, pour le Coran, innahu amalun ghayru salih. C'est une mauvaise action. Ton enfant est une mauvaise action. Naam. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention au sujet de l'éducation de nos enfants, c'est une épreuve. Est-ce que nous allons réussir ce test? Est-ce que nous allons sortir avec une expérience après le premier enfant pour éduquer le deuxième et le troisième si on en a? Est-ce que nous avons acquis une expérience de l'épreuve qu'ont vécu ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous cherchons autour de nous à ce sujet les gens qui ont de l'expérience pour qu'ils nous donnent des idées qui nous aident à élever nos enfants? Ça reste des questions à poser à chacun d'entre nous parmi les responsables que nous sommes au sujet de nos époux, épouses et nos enfants, garçons ou filles, inshallah ta'ala. Pour finir, je me rappelle à moi-même et à vous que, comme on a dit au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont été éprouvés le plus, ce sont les prophètes et messagers. Alors, parmi les prophètes et messagers, il y en a qui ont été éprouvés par le malheur, comme il y en a qui ont été éprouvés par le bonheur. Comment ça? Regardez bien. Adam alayhi salam, n'est-ce pas, qui vivait dans le bonheur total? Lui et son épouse, Hawa, rappelez-vous bien. Il vivait dans le bonheur total, oui ou non? C'est un bonheur ou c'est un malheur, le paradis? Et pourtant, à cause de cette erreur qu'il a dû commettre, lui et son épouse, bien sûr, à deux, ils l'ont commise. Et ils ont fait quoi? Ils ont quitté le paradis. Ils ont quitté ce bonheur dans lequel ils étaient. D'accord? Donc, le bonheur lui-même, qui est le paradis, était une épreuve pour voir s'ils vont utiliser ce bonheur et ce bien-être pour adorer constamment Allah et ne pas l'oublier. Car Adam a oublié. Allah l'a dit dans le Coran, sur la Taha, « Fanasiya, wa lam najid lahu azma. » Adam a oublié et il n'a pas fait d'effort pour un rappel constant. Il a vécu dans le bien. Hein? Émerveillé, tranquille. Ça nous arrive tous. Hein? Et Shaitan, il vient par ce côté-là. Et c'est une épreuve. Et naam. Il vient de ce côté-là. N'est-ce pas qu'il a dit à notre père? Qala ya Adam, hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla. Il a dit à notre père, Adam, ne veux-tu pas que je t'indique à toi et ton épouse le moyen de vivre éternellement et d'avoir la richesse totale et éternelle? Goûte à cet arbre, c'est-à-dire désobéir à Allah. Et ça arrive à beaucoup de gens, de tomber, et parmi eux, il y en a qu'Allah sauve par sa miséricorde et par le pardon. Et ça cause le malheur de qui? De Shaitan. Shaitan est malheureux quand Allah pardonne à un fidèle. Quand un fidèle retourne à Allah Azzawajal, sincèrement, et Allah lui pardonne, Shaitan il est malheureux. Qatada, rahimallah, on lui a posé la question. Vous connaissez Qatada, l'élève de Abdullah ibn Abbas. Qatada, connu par tafsir, grand maître. On lui a posé la question, ô maître, qu'est-ce qui causerait le malheur de Shaitan? Il a dit, lorsque Shaitan pousse un fidèle, ça arrive à tout le monde, à commettre un péché. Lorsque ce fidèle commet le péché et qu'il se rappelle d'Allah, il se rappelle de Rabbi subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à Allah et il dit, Ya Rabbi, ighfirli dhunubi. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pas ce péché, mes péchés. Et il retourne sincèrement Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Shaitan dit, malheur à moi, je l'ai poussé à faire un péché. Et Allah lui a pardonné tous les péchés. Tous les péchés auparavant. C'est une épreuve, mon frère et ma sœur. Adam alayhi salam, il a vécu les deux. Juste une parenthèse. Il y a certaines personnes, notamment sur Internet, qui, par erreur, ou par, comme on a dit tout à l'heure, ils le font exprès, par haine qu'ils portent sur nous, et sur notre idée, notre islamité, notre islam. Ils disent que, regardez bien, ils disent que le Coran est injuste vis-à-vis de la femme, eh oui, ma sœur, qui est derrière. La femme, elle est derrière. Le Coran est injuste vis-à-vis de la femme. Le Coran est injuste comparé à la Torah. La Torah a cité Ève, Hawa. Et le Coran n'a pas cité Hawa, Ève. Le Coran n'a pas dit le prénom Hawa, Ève. Oui ou non? Il n'a pas dit. Il a dit Zawjouka. Hein? Ils disent que le Coran a mis plus en évidence l'homme, Adam. Et en réalité, ces gens-là, ou ils sont ignorants, on a dit, ou ils le font exprès. En langue arabe, Adam veut dire celui qui est fait de teint de terre. Le teint, il a le teint de la terre. Asmar. Il est bronzé. C'est ça le terme Adam. C'est-à-dire celui qui est créé de la terre. Et Hawa n'a pas été créée de la terre. Elle est d'origine créée de la terre. Comme nous, on n'est pas créé de la terre. Hawa, Ève, elle a été créée de Adam, alayhi salam. Allah Azza wa Jal dit, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. مِنْ سُلَالَةٍ, يعني, le début c'était الطين, la terre. Mais après, on n'est pas de la terre, nous. On est de chair et d'os, et de peau. On n'est pas de la terre. Et Adam lui-même, après, n'était plus de la terre. Alayhi salam. Et donc, le terme Adam, regardez bien, dans la langue arabe, retournez à l'islam, l'arabe, ou al-bahr, kitab al-bahr, dans le dictionnaire de la langue arabe qui fait 18 volumes, vous regardez Adam. Avec l'alif bilmed, vous trouverez celui qui est issu de terre, ou bien celui qui a le teint de la terre. Il est bronzé. Le prophète sallam dit, Allah Azza wa Jal fera descendre Isa ibn Maryam قبل يوم القيامة لونه آدم لونه آدم, il dit le prophète sallam. Isa ibn Maryam n'était pas blanc, hein? Ni blond, ni blanc. Il était bronzé, alayhi salam. Cheveux noirs, yeux noirs. C'est comme ça qu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et barbu, hein? En plus. Donc, Adam, voilà ce que ça signifie. Hawa, ça veut dire celle qui a eu le hayat, la vie. Elle a eu la vie de la vie. C'est ça le terme Hawa. Mais ce n'est pas des prénoms. C'est la nature de l'homme, c'est l'être humain, le premier. Et ces ignorants, ou par ignorance, ils disent ça qu'Allah Azza wa Jalla les guide, ou par haine vis-à-vis de cette idée qu'Allah les guide. Ou Allah avec conviction. Qu'Allah les guide. Nous voulons le khair pour les Nous, Rahma, l'innes. Et donc, Adam, alayhi salam, il a vécu, lui et son épouse, les deux choses, le malheur et le bonheur, pour les éprouver. Après Adam, alayhi salam, il y a eu des prophètes et messagers qui ont vécu ou le malheur ou le bonheur pour être éprouvés. Nuh, alayhi salam, a eu le malheur, alayhi salatu wa salam, de vivre 950 ans à faire da'wa, 83 personnes qui l'ont suivi à la fin de sa vie. Il est parti avec, durant le déluge, il est parti avec 83 personnes croyantes. Et parmi ceux qui ont péri dans le déluge, sa femme et son fils, qui sont cités dans le Coran. Malheur ou c'est pas un malheur? C'est un malheur. Et c'est une épreuve pour lui, alayhi salam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il a vécu aussi plusieurs malheurs. Son père, chez la majorité des savants, où son oncle Azar était son pire ennemi. Celui qui fabriquait les idoles. Et c'est lui qui a poussé Nimrod à le jeter dans cette épreuve qui était le feu, durant lequel il a vécu le bonheur total. Regardez, un malheur, et lui, il a vécu le bonheur total. « Ya naru kouni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Ibrahim a connu al-bard wa salam alors qu'il était dans le feu. Vous voyez, al-bard. Nous, on invoque Allah, on lui demande, on lui dit « bard al-aish ba'd al-akhira ». Yani, fais en sorte que nous vivions bien après le jugement. Il a vécu bien Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et lui, il l'a dit, les meilleurs jours que j'ai vécu dans ma vie, ce sont les 8 jours que j'ai passés dans le feu de Namrud. Wa salam, paix pour Ibrahim alayhi salam. Imaginez, il avait comme compagnon 2 anges. Et Allah lui a envoyé l'ange Gabriel, et lui a mis Hulla min al-Jannah, un habit du paradis. Et il lui a fait couler une eau qui est une source du paradis, dans le feu. Et il était nourri du paradis, dans le feu, Ibrahim a.s. Quelqu'un qui rentre dans ce feu, il voudrait sortir de lui. C'est une épreuve. Il doit obéir à son Seigneur, lui a dit de sortir. Et il est sorti, a.s. Aussi, ceux qui ont connu le bonheur et que c'était une épreuve pour eux, Daoud ou Suleyman. Daoud ou Suleyman, c'était des gens riches, rois. Le roi David, hein, on l'a connu dans l'histoire. Et Salomon, Suleyman alayhi salam. Même Suleyman, il a invoqué Allah, il a dit, donne-moi un royaume et une royauté sur terre que tu donnerais à aucun autre individu à part moi. Et il l'a eu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a attrapé Shaitan, hein, et il l'a attaché dans le pilier de la mosquée. Et il avait l'intention de le garder jusqu'au matin et d'appeler les enfants de Médine et de qu'il le lapide. On peut faire ça? On ne peut pas faire ça. Impossible. Il n'y a que lui qui peut faire ça, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a attaché Shaitan, Iblis, lui-même. Et après, il s'est rappelé. Il a dit, فَتَذَكَّرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانِ. Il s'est rappelé ce que Suleyman a dit. Ô Seigneur, donne-moi un royaume que tu ne donnerais à aucun autre individu à part moi. Et il l'a relâché. Parce que c'était Suleyman qui avait comme personne soumise à lui, il avait quoi? Il avait les animaux et il avait le djinn aussi, ou le shayatin. Donc ces deux prophètes, ils ont été éprouvés. Daoud alayhi salam était roi, donc il jugeait entre les gens, il a été éprouvé par les deux personnes qui ont sauté le mur de Daoud alayhi salam et qui sont venus lui, il y en a un qui s'est plaint de l'autre, il lui a dit j'ai une chèvre et mon frère il a 99 chèvres et il m'a pris ma chèvre par injustice. C'est une épreuve pour un roi. Il faut qu'il juge avec équité. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah. Aussi, Suleyman a été éprouvé par une belle créature. C'est pas une femme, hein, faites attention. Cette belle créature, c'est qui? C'est les chevaux. Hein? Les chevaux font partie du royaume de Suleyman. Et Suleyman, chaque occasion, il se fait le bonheur de voir et d'assister à un défilé de tout ce qui fait partie de son royaume. Et qu'est-ce qu'il a vu cette fois? Il a vu quoi? Des chevaux. Et il a aimé ces chevaux. Ils sont beaux les chevaux, n'est-ce pas? C'est une belle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté de lui, non authentiquement, mais l'ulama, il le considère qu'il est makruh d'immoler le cheval, sauf pour une raison valable. Il est makruh, il est détestable. Le cheval, c'est un animal noble. Et Suleyman, alayhi salam, il a été éprouvé par cette belle créature parce que Suleyman avait un temps pour chaque chose. Et parmi les choses, il y a la salat. Et Suleyman, comme nous, avait salat al-asr, comme tous les musulmans. Et tellement il a aimé les chevaux qu'il les contemplait, qu'il les caressait, hein, jusqu'à ce que le soleil s'est couché. Salat al-maghrib est arrivé. Est-ce qu'on a le droit de regrouper entre une prière de la journée et une prière de la nuit? Non. Là, il y a juste. Alors Suleyman a vu que les chevaux l'ont détourné de la salat pour la première fois que ça lui arrive. Et donc quelque chose qu'il a aimé lui a fait oublier la salat al-asr. C'est grave, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié les chevaux pour ne plus se faire détourner de la salat. Chose qu'on ne fait pas, nous, souvent. Hein. Il n'a pas qui sacrifie le regard à la télé, ou, surtout quand il y a des matchs de foot, de boxe. Hein. C'est rare pour aller faire la prière à la mosquée. Ou bien il fait la salat, il fait la prière vite fait chez lui, pour ne pas rater la suite du match, ou la suite de la série, du film, ou autre. Hein, ou autre, une discussion, hein, un repas, et ainsi de suite. Une invitation. Et donc, Suleyman, alayhi salam, a sacrifié les chevaux. Hein. Il a été rapporté qu'il les a tous égorgés. Non, il les a sacrifiés. Pour ne plus être détournés de la salat. Et puis, il y a d'autres prophètes et messagers qui ont été éprouvés. Moussa, alayhi salam, regardez comment il a été éprouvé. Am hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Mahin, c'est-à-dire celui qui n'a pas de valeur. Et ils ont dit aussi celui qui a vécu dans l'aisance. Hein? Celui qui a vécu dans le palais. Celui qui a vécu dans le bonheur total. Wa la yakadu yubin, c'est-à-dire celui qui ne sait pas bien parler. Ils ont dit aussi celui qui bégaye. Quand il parle, Moussa alayhi salam, il a été éprouvé. Il est sorti du palais quand il a connu la vérité et il a quitté le palais. Il était considéré comme enfant de Pharaon. Moussa alayhi salam, il vivait vraiment bien. C'était un prince. Et il est sorti du palais pour devenir l'ennemi du palais, alayhi salam. Et il a connu le malheur d'être pourchassé, de quitter son peuple, de quitter sa mère après l'avoir retrouvé, de partir loin de son pays et puis de retourner par la suite. Et puis vous avez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a connu toutes les épreuves qu'ont connues les prophètes et messagers avant lui. Il y a des ulama qui ont dit parce que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a regrouper en elle tous les maux et les bonnes choses des autres eux-mêmes auparavant. On a hérité, yani la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a hérité toutes les bonnes choses et les mauvaises choses de ceux qui l'ont précédé, des aïeux. Naam. Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Ce n'est pas uniquement les musulmans, hein. Faites attention. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous les êtres humains et les djinns qui ont connu la vie à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé jusqu'au jour du jugement. Hadi ya ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lianna kulla nabi illa wa lahu umma. Et après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de nabi, il n'y a pas de rasoul. Donc c'est celle-là sa umma. Et d'ailleurs, il a été rapporté de lui dans Sahih Muslim qu'il a dit alayhi salatu wassalam: "Ma min yahoudiyyin wa la nasraniyyin min ummati sami'a bi wa lam yu'min bi illa wa dakhala an-nar." Oui, il a dit min ummati sami'a bi, il a entendu ce que je suis, il a compris ce que je suis, il n'a pas voulu me suivre, il ira en enfer. Ça veut dire le contraire, ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne comprennent pas, ils sont entre les mains du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il fait d'eux ce qu'il veut. Donc, هذا الأمة, cette أمة du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle connaît tout ce qu'a vécu, ce qu'ont vécu les Ummah avant elle. Et donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu, alayhi wa sallam, durant sa vie, pendant la vie en tant que prophète et messager, pendant 43 ans, pendant 23 ans, pardon, de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 63 ans, et dans une version de Anas ibn Malik, parce que Anas ibn Malik est un Ansari, il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il ne l'a pas connu à Mecca, il a dit que le prophète a vécu 10 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Les ulama, ils ont dit, si vous trouvez ce hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim. Sachez que les maîtres nous ont dit que 10 ans, qu'a dit Anas ibn Malik ici, à Mecca, c'est les 10 ans solaires qui valent 13 ans lunaires. Et les 10 ans à Médine, ce sont les 10 ans, il parle de sa période à lui, les 10 ans lunaires. D'accord ? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 23 ans, et dans ces 23 ans, il a connu beaucoup d'épreuves. Parce qu'il est prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été frappé, il a été lapidé, on lui a fait un piège, il est tombé durant la bataille de Uhud. Sa dent, elle est cassée, un morceau de fer est rentré ici, dans cet os, à l'intérieur. Sahaba, ils ont eu du mal à le tirer, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de lui. Sa jambe a été blessée, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. On l'a étranglé à deux reprises pour le tuer. Il a été traité de menteur, traité de sorcier, de poète, et de toutes les insultes, il les a connues, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, des épreuves les unes après les autres. Il a été éprouvé par le bonheur comme par le malheur, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé par son peuple, les notables de son peuple lui ont exposé une épreuve, ils l'ont testée, ils lui ont dit, si tu veux, on te donne la royauté, tu deviens le roi de Médine, de Mecca, la Mecque, le chef. On te donne la clé de la Kaaba, on fait de toi le plus riche parmi nous, on te marie à la plus belle et plus jeune femme des Arabes. En échange, tu te tais, tu parles plus de l'islam, plus d'unicité de Dieu. Et le prophète a été éprouvé. Il a dit, Wallahi, par Allah, je le jure, si vous mettez, vous ramenez le soleil, vous le mettez sur mon épaule de droite, la lune sur mon épaule de gauche, pour que, en échange, je quitte ma religion, je ne le ferai jamais, jusqu'à ce qu'Allah la mette en évidence ou je décède. Et il a réussi, alayhi sallatou wa sallam. Il a été éprouvé par une mort qu'Allah lui a promis. Allah a promis pour lui qu'il souffrirait durant la mort. C'est pour ça qu'il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. D'accord ? Ô Seigneur, apaise pour moi les calamités et les préjudices et difficultés de la mort. Parce que il disait aussi, quand il était malade, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en fin de vie, il disait, ala inna lil mauti sakarat. Sachez que la mort, quand elle arrive, il y a des difficultés, il y a des douleurs. Il y a des douleurs quand l'être humain il décède. Et l'ulama, Ibn Khaldun, rahimahullah, dans le Muqaddima, il a décrit la mort, il a dit, c'est comme lorsque vous arrachez un arbre de ses racines. Difficile, hein? L'âme, elle sort du corps. C'est un arrachement. L'ange, il vient, il arrache, ou les anges, ils arrachent l'âme du corps. Donc le prophète, durant sa mort, alors qu'il était en fin de vie, en train d'agoniser, bientôt il va mourir, il va être éprouvé par un bonheur et non pas par un malheur. Allah Azza wa Jalla lui envoie l'ange de la mort. Eh oui. Et l'ange de la mort ne vient jamais à quelqu'un, n'importe qui. Hein. Nous, on n'aura pas l'ange de la mort, faites attention. On aura les anges qui sont au service de l'ange de la mort. C'est une certitude, hein. Faites attention. Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim. ثُمَّ تَوَفَّتْهُمْ رُسُولُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. رُسُولُنَا, des messagers. Et le hadith dans Sahih al-Bukhari ou Muslim que vous connaissez, qui parle de celui qui a tué 99 personnes. Il les a clos par le centième. Et son pardon, c'était quoi? qu'il aille, qu'il quitte le pays dans lequel il a commis le mal pour aller dans un autre pays. Et en chemin, il est mort. Qui c'est qui est venu prendre son âme? L'ange de la mort. Ah non, le hadith, il nous dit, les deux groupes sont venus. Hein? Parce qu'il y a deux groupes. Il y a les anges de Rahma, la miséricorde, et il y a les anges de l'adab, du châtiment. Qu'Allah Azza wa Jal yirhamna. Et donc, lui, c'est pas n'importe qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas n'importe qui. C'est l'homme et la créature qu'Allah aime le plus. Alors, il l'honore. Il lui envoie l'ange de la mort, lui-même. Et l'ange de la mort, comme il a été rapporté dans le Musnad d'Imam Ahmed, il a été yani, authentifié, fiable par l'imam al-Albani, rahimahullah, l'ange de la mort a frappé à la porte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha le rapporte, elle raconte. Et puis l'ange Jibril, il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Mohammed, derrière la porte, il y a l'ange de la mort. Il demande l'autorisation de rentrer. » Eh oui, c'est pas n'importe qui vient, hein. Il demande même l'autorisation pour rentrer. On a les anges, ils demandent l'autorisation pour rentrer chez nous. Shayatin ne demande pas d'autorisation. Alors imaginez les anges. Shayatin, on peut les arrêter, non? Si on récite Ayatul Kursi à la maison, dans la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui récite Ayatul Kursi dans sa maison, impossible qu'un shaitan rentre. Et s'il est dedans, il fuit, il fait un bruit comme un âne quand il fuit. Impossible, il rentre. Récitez Ayatul Kursi chez vous. Hein. Celui qui rapporte le hadith, sahabi Abu Hurayra radiallahu anhu, on nous a rapporté que lui, quand il rentrait chez lui, il récitait Ayatul Kursi dans chaque coin de la maison. Tellement yani, la conviction en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ange de la mort, lui-même, s'est déplacé. Il attend l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète regarde Jibril et lui dit, il a su, il sait que c'est, ça y est, la mort. Il lui dit, Ummati ya akhi, et ma communauté, après moi, mon frère. Il lui dit, Allah azza wa jal te promet, lan yukhdilaka fihim. Et Allah ne va pas te décevoir au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux lui donner l'autorisation. L'épreuve, hein? L'ange de la mort rentre. Salamun alaykum ahl al-bayt. C'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha est là. Et ce qui est étonnant dans le hadith, je vous raconte juste une partie, c'est que Aïcha, elle nous raconte même quand Jibril est rentré. Et avant de rentrer, Jibril, il a frappé à la porte. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de mourir, il est malade, hein, la fin de sa vie. Il a dit à Aïcha, Jibril veut rentrer. Couvre-toi. Subhanallah. Aïcha, elle se couvrait de Jibril. Pourtant, Jibril, c'est un ange. Mais al-haya, min al-iman. Et le prophète a pensé, alors qu'il était en train de mourir, à ça. Alors nous, combien de, parmi les femmes des musulmans, qui cherche dans la boîte aux lettres en bas, sans être bien couverte. Combien, quand elle ouvre la porte, aux non-musulmans, ne se couvre pas comme quand elle ouvre la porte aux musulmans. Eh oui, il y en a des sœurs qui n'ont rien compris dans le hijab. Rien du tout. La vraie tenue, c'est celle de la pudeur. Mais le tissu est là. C'est quelque chose qui disparaît. Un tissu aujourd'hui, un autre le remplacera demain. Mais la vraie tenue, c'est celle de la pudeur et de la croyance et de la piété. Allah Azza wa Jal dit Khayru Zad At-Taqwa. Et il dit aussi Khayru Libas At-Taqwa. La meilleure tenue, c'est At-Taqwa. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange de la mort s'adresse à lui. Il lui dit, Allah, oh mon frère, m'a envoyé à toi. Regardez l'épreuve. Il lui dit, Allah te donne le choix entre deux choses. Si tu veux vivre éternellement, in aradta khuludan khalladak. Tu veux vivre éternellement, Muhammad, Allah t'aime. Il te laissera vivant éternellement. Wa in aradta mawtan, si tu veux mourir, sache, fa inna Allah mushtaqun ilayk. Sache que tu manques à Allah. Hakeda dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad. Tu manques à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est face à une épreuve. Et bien, imagine, nous sommes devant cette épreuve. Vivre éternellement ou mourir. Qu'est-ce qu'on va choisir? Allah alam. On ne sait pas. Qu'Allah nous préserve. Hein? Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une épreuve à sa hauteur. Car nous, on n'aura jamais cette épreuve. Soyez certains. Hein? Tranquille. Alhamdulillah. Pas de problème. On n'aura jamais affaire à cette épreuve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rappelé d'un verset du Coran qui dit « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun ». Certainement, tu vas mourir, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. « Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. » Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'ange de la mort, lui, il ne dit pas « Je veux la mort, je veux mourir ». Il a dit une seule parole et Aïcha l'a dit, il n'a cessé de le dire jusqu'à ce qu'il a agonisé. Dans une version, « Rabbi, uridu Rabbi, mon Seigneur, je veux mon Seigneur. » Et dans une autre version, « Il al-Rafiq al-A'la. » Vers le compagnon, le très haut compagnon, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'épreuve, mon frère, ma sœur, elle est au quotidien, elle est maintenant, elle est depuis tout à l'heure. Vous êtes assis devant moi, sectine. C'est une épreuve pour moi, hein, parce que personne ne discute avec moi, ce que je dis. Il y a le respect total. Les musulmans, ils nous respectent. Et l'épreuve, elle est dans la patience que vous avez connue depuis tout à l'heure. Quel était le degré de la patience au début et quel est le degré de la patience maintenant? D'accord? Ceux qui ont patienté, qui sont restés. Jusqu'à maintenant. Et l'épreuve aussi, pour celui qui a faim, il n'a pas mangé. Et l'épreuve aussi, de celui qui a des problèmes, des difficultés, et malgré ça, il est là à écouter la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu an yu'afiyana jami'an. Fi hada al-qadri kifaya. Sur ce point, on s'arrête, inshallah ta'ala. Je m'excuse pour le retard. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك شيخ أحمد. Remercie vraiment pour cette intervention très riche et très importante pour chacun et chacune d'entre nous. D'abord, c'est moi qui m'excuse parce que j'ai voulu plusieurs fois intervenir, mais à chaque fois, ça m'a semblé tellement important que je n'ai pas osé interrompre notre frère. Donc, c'est moi qui reviens la responsabilité du retard de Cheikh Ahmed. Donc, juste avant de passer à quelques questions, parce qu'on n'aura pas le temps, et puis de toute façon, il n'y a que trois questions, alhamdoulilah, c'est que deux informations essentielles, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais on a fait des élections ici durant cet été et un nouveau, alhamdoulilah, président a été désigné que vous connaissez certainement puisqu'il est souvent ici, d'ailleurs tellement que certains pensent qu'il vit ici, c'est pas le cas, il s'agit de notre frère Mustafa Itmohou, donc on va demander tout à l'heure à Cheikh Ahmed de faire des du'as, inshallah, parce que c'est une épreuve également, la responsabilité, et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aide dans cette mission qui est la sienne, donc de diriger cette mosquée. Et puis, la deuxième information majeure, c'est, tout à l'heure, Ahmed aussi a parlé de l'éducation des enfants. Le 8 novembre, inshallah, on vous donne rendez-vous ici, vers 19h, puisqu'on aura changé d'une heure. Ça aussi, c'est une épreuve. Hein. On aura bougé d'une heure, et donc ça sera un peu plus tôt. Donc, vers 19h, Hassan Riyusen interviendra sur l'éducation des enfants dans cette mosquée. Donc, on vous donnera rendez-vous, inshallah, dans cette mosquée, le 8 novembre, à 19h. Alors, question, alors, toujours un peu délicate, mais concrète. Tu nous as dit que l'islam est la facilité et le bonheur pour le croyant. Mais comment me considérer si certaines obligations, comme par exemple le port du voile en France, est une gêne et une difficulté? Cela me permet-il de ne pas le porter si je ne me sens pas bien avec? Car Dieu ne charge aucune âme plus qu'elle ne peut supporter. Barakallahu fik.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Selon mon peu de savoir à ce sujet, le port de la tenue vestimentaire musulmane n'est pas limitée au foulard. La tenue vestimentaire de la femme musulmane, elle couvre tout son corps, sauf ses mains, jusqu'aux poignets et son visage. Le fait que le port du foulard porte préjudice à une musulmane ou la met dans la gêne totale, met cette musulmane dans la facilité que l'islam apporte. Et cette facilité, les ulama nous l'ont transmis depuis 1986, lorsque Cheikh Faisal Maulawi, rahimahullah, avait fait une fatwa qui est fatwa légitime, que aucun savant n'a mis en cause, une fatwa pour les élèves qui sont au collège ou au lycée, parmi les filles qui ont des difficultés à porter leur foulard et qu'elles risquent d'être touchées par le préjudice, d'être écartées des cours, de certains cours, ou qu'on leur mette des mauvaises notes, ou carrément qu'on les exclue de certains cours ou certaines classes, il a fait cette fatwa d'autoriser aux filles musulmanes qui vont à l'école de ôter leur foulard. Il faut faire attention. Ils n'ont pas toute la tenue. Leur foulard qui couvre leur tête, d'accord, uniquement dans le lieu où elles risquent ce préjudice, où elles connaissent ce préjudice. Et donc, bien sûr, ma sœur, l'islam est pour nous un bonheur et pour nous une facilité. Quand on est touché ici, quand une femme musulmane ici a du mal à vivre sans salaire et qu'elle a l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, que le mari ne travaille pas ou qu'elle n'a pas de mari et qu'elle a à charge des enfants, les savants tous disent « At-darurat tubihul mahdurat ». Quand on est dans la difficulté extrême, l'islam nous trouve la facilité de nous autoriser ce qui est illicite même. Et parmi les choses illicites, d'ôter le foulard. Et une femme musulmane qui est dans cet état-là, elle a le droit de ôter son foulard dans le lieu du travail et de le remettre par la suite. Mais Shaitan, il joue des tours. Il y a des sœurs qui commencent à philosopher et à dire « Si je fais comme ça, donc je suis hypocrite. Je le mets dans un lieu et je l'enlève dans un autre. » Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie du tout. Vous êtes dans une extrême gêne et une difficulté et l'islam te trouve la facilité. Tu enlèves ton foulard dans le lieu du travail et il y a des sœurs qui le font. Et donc je ne vois pas la contradiction à ce sujet. Certes, moi je ne suis pas une femme pour vivre cela et le comprendre, mais ce que je connais selon mon peu de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont vécu ces difficultés, qui se sont mis dans ce cas-là, le cas de prendre cette autorisation des savants et de vivre une période de cette manière, et Allah Azza wa Jal par la suite leur trouve issue favorable. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, il lui trouve issue favorable. Il le nourrit de là où il ne peut s'attendre. Quiconque craint Allah, il lui trouve facilité dans sa vie. Cheikhna, c'est Mohamed Riyad, hafidhahullah, une sœur en ma présence lui a dit: quand je sors de chez moi et je prends le métro pour aller à la fac, les regards des gens, ils sont perçants. Ils me gênent. Il y a même des gens qui me disent des paroles, des racistes et des... Hein, et Cheikh Hafidhahullah, il lui a pas dit « ôte ton foulard ». Il lui a pas dit « reste chez toi, ne va pas à l'université ». Il lui a dit « il suffit de dire un dua avant de sortir et ou pendant que je sors de chez moi. » Le dua, c'est quoi ?« Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwata illa billah. » Vous le connaissez, ce dua ? Dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, un ange te dit, « Kofita wa ufita yawmaka kullahu » Il ne t'arrivera aucun problème. Et donc, si tu fais ce dua, il ne t'arrivera aucun problème. Mais il faut le faire avec conviction. Yani, cette affaire, elle est très délicate, certes. Elle touche nos sœurs. Il faut leur trouver une solution. Pour l'instant, on a cette solution de l'islam et on a d'autres solutions. Parmi elles, le fait d'être fort économiquement, le fait d'agir dans la société, le fait d'avoir nos propres entreprises, le fait d'être soudés entre nous, d'embaucher nos sœurs. Parce qu'une femme musulmane a le droit, comme un homme, de travailler, de gagner sa vie. Aucun texte ne lui interdit cela. Aucunement. Et quiconque le prétend, il prétend un mensonge au sujet de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam.
Alors, une autre question sur le cimetière cette fois-ci. On nous parle, la personne pose la question sur les caveaux familiaux. Sont-ils permis en islam ou pas? Barakallahu fik, c'est-à-dire se faire enterrer en famille dans la même tombe. Une autre question. Est-ce que chaque âme sera séparée même si elle se trouve avec d'autres personnes?
Bien sûr, c'est autorisé. Et c'est connu dans le fiqh islamique. Al-lahd. Il y a le qabr, il y a l'lahd. L'ahd, c'est lorsque on enterre les gens les uns au-dessus des autres, sur le côté ou dans le sol, les uns au-dessus des autres. Ça a existé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avant. Et le prophète même, il a dit, c'est mieux que le qabr. Le fait d'être enterré en plusieurs, c'est mieux d'être enterré que d'être enterré tout seul. Et lui-même, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud, il a été rapporté de lui qu'il a enterré beaucoup de musulmans parmi les morts, les martyrs, dans une seule grande tombe, qui s'appelle l'Ahd en langue arabe. Alim, alim, ridwanullah. Donc c'est autorisé, il n'y a aucun problème. À l'intérieur, est-ce qu'on va vivre ce qu'on vit tout seul, ou ensemble, on va le vivre tout seul? Après la mort, il n'y a pas de rencontre, si ce n'est les rencontres rapportées par le professeur Asselem, la veille du vendredi, le jour du vendredi, de ceux qui sont morts récemment. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un mort récemment parmi ceux que nous connaissons, nous le rencontrons ou la veille du vendredi ou le jour du vendredi et on lui pose des questions concernant ceux que nous avons laissés derrière nous. Qu'en est-il d'eux? À part ça, chacun il vit dans un jardin du paradis ou une fosse de l'enfer ou l'a'idhu billah, qu'Allah nous préserve, tout seul, inshallah ta'ala.
Enfin, une dernière question. Salam, mon frère Ahmed. Merci de ton rappel. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le deuxième verset de Surat al-Mulk, donc la royauté, pourquoi il a dit la mort et la vie et non la vie et la mort parce qu'on vit avant de mourir?
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Certes, mon frère, ma sœur qui a posé la question, certainement, nous, réellement, on connaît la vie et après on connaît la mort. Mais en vérité, on est mort avant de vivre. À deux sens. Les ulama nous l'ont expliqué. Il y a un avis qui dit parce qu'on était dans l'adam. L'adam, c'est-à-dire la non-existence du corps, mais l'existence de l'âme. Vous le savez, notre âme a existé dans le monde céleste. Et quand le corps est créé comme fœtus dans le corps de notre mère, à partir du 42e jour jusqu'au 120e jour, Allah envoie un ange avec notre âme. Il la souffle dans le corps. Donc nous avons existé dans ce qu'on appelle l'Adam, Dar al-Adam, le monde céleste. Et ce monde, ici, dans le monde terrestre, il est connu comme mort. On n'a pas d'existence. Il y a cet avis. Il y a l'autre avis qui dit, et c'est un avis scientifique, cartésien, prouvé par la science, c'est que l'être humain, avant d'être vivant, il était une chose morte. C'est-à-dire que le sperme de l'homme, il vient d'où? Il vient de ce qu'il mange, sa nourriture. Et sa nourriture, elle vient d'où? Elle vient de la terre, oui ou non? Elle vient de la terre. Et avant qu'il la mange, il doit la tuer. Quand on mange la viande, on la tue. D'accord? Et quand on mange les légumes, on les tue. On les coupe de la vie. Les fruits, on les tue aussi. Et donc tout ce que nous mangeons, obligé, il est mort avant que nous le mangions. On ne mange pas les choses vivantes. Hein. On les mange après qu'elles soient mortes. Et donc ce qui fait notre sperme chez les hommes, c'est quoi? C'est la nourriture qu'ils mangent, et cette nourriture, elle était morte. Donc l'homme, avant d'être sperme, c'est-à-dire ce qu'ils appellent hayawan manawi en arabe, hayawan, c'est-à-dire la vie, il a la vie, il était quoi? Il était mort, et puis après, il a connu la vie. Voilà les deux avis que j'ai connus dans le tafsir. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Donc on remercie encore une fois le Cheikh Ahmed, qui est vraiment très apprécié de par son style que vous connaissez déjà, avec son humour et sa façon qui est vraiment très appréciée de présenter les choses. Donc on aura le plaisir, j'espère, de le revoir ici parmi nous. En tout cas, il sait qu'il est le bienvenu quand il veut, inshallah ta'ala. Et vraiment, j'aimerais vous conseiller, vous inciter de ne pas l'oublier dans votre dua, inshallah ta'ala. Tout à l'heure, il a dit le hadith du prophète dans lequel il dit là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque nous sommes prosternés. Ce moment est propice justement au dua. Donc ne l'oubliez pas, inshallah, barakallahu fikum, dans votre dua. Et je vous remercie, vous, de votre patience, puisque la soirée a été longue. Inshallah, peut-être pour certains, elle sera encore plus longue. En tout cas, barakallahu fikum, merci de votre patience. Et je vais demander à Cheikh Ahmed de clôturer avec des dua, inshallah. Et on se retrouve donc le 8 novembre ici à 19h. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.
Et on se voit, inshallah ta'ala, si vous le voulez bien, m'honorer par votre présence le vendredi prochain à la mosquée de Vinnabdask à partir de Salat al-Isha, puisqu'ils vont changer l'heure. Ce sera à 19h, inshallah ta'ala. Il y aura mon maître, Cheikh Yo Habibi, c'est Mohamed Al-Khiyat, qui va m'honorer par un cours. Il va faire un dars. Il ne se déplace pas ailleurs. Alhamdoulilah, on a cette opportunité de l'entendre. C'était un savant parmi les savants de l'islam. Venez, inshallah, écoutez-le. Il sera traduit, inshallah ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات والأرضين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النيران اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل المحبة فيما بيننا اللهم اجعلنا إخوانا متحابين في جلالك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وثق أخوتنا اللهم وقوي جمعنا اللهم اجعلنا يدا قوية على من عادانا اللهم اجعلنا هادين مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للهداية اهدي أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين رد منا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم إن المذنبون فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن التائبون فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن الجاهلون فعلمنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إن الفقراء فأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك منيبين لك أواهين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ هذا الجهد وعليك التكلان قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فاستجب لنا كما وعدتنا كما دعوناك فأمرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.